Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Eh oui, on est de retour pour un bel épisode parce que, alors, comme toujours, hein, je voyage en train. Il paraît que les plus belles rencontres se font sur un quai de gare ou autour d'une table. Moi, j'ai fait les deux. Hein. J'aime bien être autour d'une table et j'adore prendre le train. Aujourd'hui, je me suis fait un petit cadeau. Il y a comme ça des rencontres qu'on fait au départ avec un vigneron autour d'une bouteille. Donc c'est le vin, en fait, c'est souvent la première rencontre, c'est souvent le vin. Moi, je parle souvent de vigneron comme d'artiste, et là on est chez un artiste. Alors je sais pas si aussi il va assumer ce nom d'artiste. Je suis avec monsieur, alors on se tutoie, hein, mais parce que c'est un profond respect, c'est un honneur qu'il nous fait, monsieur Jean-Pierre Frick. Salut Jean-Pierre.
Salut. Et je suis heureux de ta venue, et une venue écologique, en bicyclette et en train, puisque le vin nature et la bio, ça ne concerne pas que le vin, ça concerne l'écologie dans son ensemble. Donc il ne s'agit pas seulement de s'occuper des insectes qui disparaissent, ou des vers de terre, ou des papillons, mais de l'ensemble, et même de la langue. Pour ceux qui comprennent quelques mots d'alsacien, parce que chaque langue qui disparaît, c'est aussi grave qu'un papillon qui disparaît. Ça fait partie de la grande écologie naturelle et culturelle. Et comme tu disais tout à l'heure, artiste, c'est peut-être un tout petit peu prétentieux, dans la mesure où le vigneron, comme le paysan en général, est quand même extrêmement dépendant des conditions naturelles. Alors effectivement, ou le cuisinier aussi, il est... Moi j'aime bien le terme « à la lisière des arts ». Voilà. Donc on n'est pas loin, à la lisière des arts. Et j'ai entendu une émission une fois de Bocuse, quand il avait à la radio, quand je roulais. Et il avait déjà plus de 90 ans, je crois qu'il est décédé à 92. Et donc le journaliste l'interrogeait sur sa recette fétiche. Et il a dit, c'est le pot-au-feu. Alors le gars était un peu surpris, puisque c'est pot-au-feu, c'est plutôt classique, pas extrêmement prestigieux. Il a dit oui, parce qu'il n'a pas perdu ses racines, cet homme-là. Il a dit parce que le pot-au-feu, comme la viande, est cuite, et à des époques où il n'y avait pas des congélateurs, le froid comme on l'a aujourd'hui, Il a dit, en été, le lendemain, je peux en faire des tomates farcies, et en hiver, je peux en faire du hachis parmentier. Donc ça, c'est du bon sens. Du bon sens, alors on peut l'assimiler, proximité de l'art. Faut avoir l'art, c'est avoir les idées, se laisser inspirer par le moment, par la matière première qu'on a. Mais par modestie, je dirais, à la lisière des arts.
J'ai envie de commencer par une première question, parce que quand on connaît tes valeurs. C'est quoi pour toi la plus belle qualité chez un être humain ?
La sincérité. Parce que de la sincérité découle une fraternité. On peut compter sur des gens sincères. Et les gens sincères entre eux ne s'écrasent pas les uns les autres. Donc la sincérité, et c'est d'ailleurs ce que je souhaite aussi dans les vins, tu parlais d'AOC, bon, on peut en parler tout à l'heure, faire des cahiers des charges, on pourra faire encore des dizaines de cahiers des charges. Si les gens, ou des lois pour contourner ou ne pas contourner l'échappement fiscal et tout, si... La sincérité, c'est une qualité d'âme, c'est une qualité intérieure, d'esprit. Et si quelqu'un a un moment, nous sommes tous en chemin, quel que soit le travail qu'on fait, les vignerons nature, les écrivains, les journalistes comme toi, etc. Et il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. On est en chemin et on n'est peut-être pas au même endroit. On n'est pas sur le même chemin parce qu'il y a beaucoup de bifurcations. Mais l'essentiel, c'est de dire ce qu'on fait. Si une année, pour une raison précise, j'ai été obligé de mettre un peu de soufre, je ne suis pas banni pour ça. Ce n'est pas la fin du monde. Il suffit de le dire, de dire aux gens, ce matin, j'ai eu des difficultés de tel et tel ordre. Et c'est la raison pour laquelle, à la mise en bouteille, j'ai mis 15 mg. Donc ça reste un vin nature encore, puisque les vins nature... L'idéal est qu'il n'y ait aucun sulfite et évidemment aucun autre intrant, mais c'est toléré jusqu'à 30. Nous, sur nos étiquettes, on a par exemple les purs vins sans sulfite ajouté. Là, il n'y a aucun ajout. Et puis, il y a d'autres étiquettes où c'est marqué sucre résiduel, par exemple 10 grammes, SO2 total 19-21 mg. La sincérité, c'est une forme de transparence. Et si moi, je me suis mis en colère avec quelqu'un, et je lui explique que depuis ce matin, il y a ça qui m'est tombé dessus, il y a ça, ça et ça, et que maintenant, je suis irrité, la personne va comprendre que la colère que j'exprime vis-à-vis d'elle, c'est pas à cause d'elle. Si je ne dis rien, je dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là pour que j'ai une tête qui lui revient pas? Donc voilà, sincérité. Ou de dire le matin, moi avec les gens qui bossent avec nous, je leur dis quelquefois le matin, je dis les gars, ce matin, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je suis irrité et irritable.
Je peux n'y goûter que l'une.
Si je fais le monde que c'est, on y paie miette, on y paie une snache de conga, on danse, on sale, on y paie ça, c'est ironique ce qu'il y a à dire, on pense à ouf, et à namens n'est pas, on y paie ouf, crête. Voilà, autre n'y goûter que l'une. Moi, je dis toujours, ça me dérange pas qu'une viticulture et qu'une vinification industrielle, de toute façon, elle existe. Elle existe, elle a le droit d'exister. Ils ont le droit, il y a un codex alimentaire, donc ils mettent des produits qui sont légalement autorisés. Après, c'est aux consommateurs d'être acteurs aussi et de dire, ça... Jusque-là, j'accepte dans mon alimentation, et ça, j'accepte pas. Bon. Donc, quand on achète un paquet de gâteaux secs à 1 euro, généralement même en deux langues, il y a tout un paragraphe qui contient du froment, du bicarbonate de soude, de la lécithine de soja, et je ne sais quoi. C'est marqué pour un truc qui vaut 1 euro. Vous achetez, le consommateur achète une bouteille à 15, 30, quelquefois 50 euros.
Quelquefois 3 euros aussi.
3 euros. Oui, mais disons, pour 3 euros, à la limite, c'est plus excusable de ne pas savoir ce qu'il y a dedans.
Enfin, vaut mieux peut-être.
Je dirais, oui, éventuellement. Mais donc, cette exception je dirais, liée au vin, elle est... c'est pas tout à fait juste, puisque c'est pas une transparence. Alors bon, il semblerait que maintenant, il y ait des... Et alors, il y a des effets pervers aussi. Par exemple, à cause des allergènes, le collage au blanc d'œuf se faisait très longtemps. L'œuf n'est pas un produit toxique. Et en plus, les poules, à l'époque, on faisait couramment, pas tellement en Alsace, mais dans les régions à vin rouge. Bon, aujourd'hui, vous pouvez, enfin, le vigneron peut toujours faire des collages au blanc d'œuf, mais il doit marquer qu'il y a de l'œuf dedans et que c'est allergène. L'œuf, c'est pas le plus grave. Idem pour la caséine qui provient du lait, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au lait et d'autres qui sont allergiques aux œufs. Alors, résultat, parce que ça ne fait pas bien de marquer sur l'étiquette « contient des allergènes issus du lait ou de l'œuf », maintenant, on peut mettre, sans rien écrire, alors, pardon, je ne saurais pas dire, du PPPV, polypyronidol, enfin, pardon, j'ai pas ça en tête, c'est des noms relativement compliqués, ça c'est un truc vraiment totalement de synthèse, et ça, il n'y a pas de gens encore allergiques à ça, apparemment, et donc, on est exempt de le mettre sur l'étiquette. Ok. Donc, on va quelquefois d'une intention de protéger les gens allergiques aux produits laitiers et à l'œuf, c'est une bonne intention. Mais comme le vigneron, il trouve que ça, enfin le vigneron ou la grosse boîte, trouve que ça ne fait pas bien sur l'étiquette, si lui, il pense qu'il a quand même besoin de faire un collage, il prend le PPPV et ça, il n'a pas besoin de le marquer. Et ça, c'est un produit de synthèse, alors que l'œuf, un œuf bio, c'est au moins un produit naturel. Voilà.
Oui,
il y a des trucs pervers, il y a quelquefois des... On peut partir de bonnes intentions et puis le résultat n'est pas forcément concluant.
Moi, je voudrais que tu me parles de ton histoire. On va peut-être revenir au petit garçon que tu étais, comment tu as grandi, etc.
Oui, alors l'histoire, je suis né donc en Alsace. Quand je suis arrivé, ma langue maternelle, c'est l'alsacien. Bis in der Kindergarten bin und ich nur elsassisch gret. Und salamols han mini eltra gseit, wenn er amol in Schule geht, muss er in a Ort gehen, in a Region von Frankreich, aus er ausständig Französisch lehrt. Donc, je traduis quand même. Donc, j'étais à l'école maternelle en connaissant que... À l'époque, on appelait ça école maternelle. Je suis né en 56. Et...
Comme ma maman. Salut, maman.
Et puis donc, 56, qui était d'ailleurs une année très singulière. Au mois de janvier, tout le monde était en... À l'époque, on appelait ça encore des t-shirts, mais en petite chemise. Et en l'espace de... Donc, il y avait plus 25 degrés. Et en l'espace de 48 heures, on est passé de plus 25 à moins 25. Même les oliviers ont gelé dans le sud de la France. Mais les bébés étaient bien au chaud, puisque ta maman et moi, on a survécu. Bon,
elle est née en août, donc je pense que c'est plutôt pas mal.
Ouais. Voilà, donc... Et donc, ma première langue, c'est l'alsacien. Et mes parents... se sont dit, si un jour je devais aller dans une école, et pourquoi pas une école de viticulture, ce serait plutôt dans la France, comme on dit, de l'intérieur.
Sinra.
Que Sinra, puisque là-bas, on parle mieux. Alors, je sais qu'il y a des gens que ça blesse un peu de parler de la France de l'intérieur. Il y a d'autres manières d'exprimer ça. Il y en a qui disent en vieille France. Pourquoi en vieille France ? Ben parce que jusqu'en 1648, l'Alsace faisait partie de ce qu'on appelait du Saint-Empire romain germanique qui a débuté à la chute de Rome et qui a quasiment duré un petit millénaire. Alors, c'était pas la paix absolue, il y avait plein de principautés et tout, mais on appelait cette grande région le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pour ça, on goûtera tout à l'heure le Berg Weingarten, ou le Strangenberg, tous les noms des grands crus et des lieux-dits alsaciens, du nord au sud, et à Pfaffenheim aussi, sont à consonance germanique, puisque ces noms ont été donnés entre il y a 6, 7, 800 ans, peut-être 900 ans pour certains, et donc on faisait partie de cet empire romain germanique. Et donc la Nouvelle-France débute, ou la France actuelle, quoique ça a encore bougé un peu à plusieurs fois, mais débute en fait avec Louis XIV et le traité de Westphalie en 1648, où l'Alsace est donc passée du Saint-Empire romain germanique à la France. C'est pour ça qu'on distingue l'époque d'avant, 1648, et d'après. Et c'est pour ça qu'on dit France de l'intérieur. Et avant, c'était la Vosges, les Vosges, qui étaient donc la frontière. Aujourd'hui, c'est le Rhin. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai fait juste un bac agricole technique, ça s'appelait à l'époque BTAO, option viticulture œnologie à Avize, donc en Champagne. C'était ça ou Beaune, parce que à cette époque-là, moi je suis parti à 13 ans, il n'y avait pas encore de section viticole à Roufac. Et puis voilà, alors est-ce que mon français est meilleur parce que j'étais 5 ans en Champagne, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était intéressant de découvrir une région différente. Et puis après je voulais pas forcément me lancer dans la poursuite de la viticulture. Mon rêve, c'était de faire de l'écologie. Et il y avait une école d'écologie à Neuvik. Donc ça, c'est dans les années 74, Giscard d'Estaing. C'est là que j'ai goûté la première fois, j'avais 18 ans. Et puis finalement, je m'y suis pris un peu tard, et donc on ne pouvait pas me prendre tout de suite la première année. Et puis après, il y a eu de nombreux événements, comme souvent, mon père qui se fatiguait, et puis du coup j'ai bossé ici, j'ai fait 6 mois de stage en Allemagne, 3 mois en Suisse chez un bio, chez Émile Vuy, au-dessus du lac de Bienne, un monsieur qui était un tisserand d'art et donc qui est passé de l'art à la lisière des arts. Et ouais, c'était très, très sympa aussi. Là-bas, j'étais en 76, cette année où il faisait tellement sec. Et je suis toujours d'ailleurs objecteur de conscience. Donc, maintenant, on ne va pas s'étendre sur la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe au Yémen, parce qu'on parle de la Russie et de l'Ukraine, c'est bien légitime d'en parler. Mais je veux dire, il y a plein d'autres conflits dont, malheureusement, on parle très peu. Il y a des conflits, il y a des guerres civiles en Somalie, il y a des situations très, très tendues et puis de toujours. Et ça m'a, en tant qu'ado déjà, ça m'a toujours travaillé. Et donc j'ai dit, moi je ne ferai pas de service militaire. J'ai appris à connaître le MAN, le Mouvement d'Action Non Violent, et plein d'autres associations qui étaient anti-nucléaires militaires, et du coup anti-nucléaires civiles aussi, puisque c'est lié. Et donc j'étais une année objecteur de conscience en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine. J'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, je me suis rapproché, et ça s'est mal passé avec le directeur de l'époque de l'hôpital de Guebwiller. Donc ça date, hein, ça fait longtemps. Il s'appelait Christ, d'ailleurs, et ça devait être un ancien militaire, il supportait pas les objecteurs. Et puis, j'y allais un jour par semaine, puisqu'il voulait pas me voir, parce qu'un jour par semaine, on pouvait pas être classé déserteur. Et un jour, il a piqué une telle colère, il m'a foutu dehors, il a failli me baffer. J'ai dit, écoute, maintenant, mon gars, voilà, j'y suis plus allé. Et donc, j'ai bossé à la maison et donc, j'avais plus de protection sociale. Et un an plus tard, arrive la gendarmerie, il me dit, bon, bah, écoutez, maintenant, voilà, il faut faire une déposition, vous êtes déserteur, etc. Et donc, passé au tribunal, mon avocat à l'époque, c'était Ben Turelli, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, premier passage, pour eux, ce n'était pas assez clair, il manquait des éléments et tout. Deuxième passage, il y avait de nouveau pas ci et ça. Donc, ça a traîné sur des années. Et en 81, élection de Mitterrand. Et Mitterrand a eu la sagesse d'amnistier ce que n'ont plus fait Macron et ni Hollande, d'ailleurs. On dit que la justice française est encombrée. Alors, il ne s'agit pas d'amnistier des tueurs en série, évidemment. Mais je veux dire, le gars qui est dans un quartier a emprunté une mobylette, voilà, c'est pas la peine à 16 ans ou 17 ans de lui casser les pieds, à vie, etc. Et donc là, pour les objecteurs, en l'occurrence déserteurs, bah, Mitterrand, il a amnistié. Et ça, c'était quand même, en tant que président de la République, je regrette un peu que les trois derniers mandats, il n'est pas usé de cette faculté pour vraiment des choses qu'on peut considérer.
Une seconde chance, quoi.
Ouais. Voilà. Et puis après, après tout s'est enchaîné très vite. J'ai rencontré Henri Bannemarck, qui était le premier billon d'Alsace en 64. Eugène Meyer, le deuxième, en 69. Mon père s'est mis en bio en 70. Et à eux trois, à l'époque, ils cultivaient environ une quinzaine d'hectares. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, 52 ans plus tard, eh bien, il y a 5000 hectares en bio en Alsace. Comme quoi, en un demi-siècle, ça a quand même bougé. Malheureusement, le domaine de Henri Bannemarck n'existe plus. Et avec Henri est donc venue cette foire bio à Oufac, qu'on a fait 25 ans à Oufac. J'étais cofondateur et ensuite j'étais président organisateur pendant longtemps. Et au bout de 25 ans, j'avais fait entrer d'autres collègues. J'ai pris un peu de recul et c'est Jean-François Pierre Day qu'on a fait entrer dans le comité qui s'est occupé un peu de la direction entre guillemets de la foire. Voilà. Que dire d'autre? Biodynamie en 81. Pourquoi la biodynamie? Parce que elle ouvre sur une approche très très globale. La bio c'est très bien, très bien. La biodynamie permet simplement de s'insérer dans quelque chose d'un peu plus vaste, puisqu'on s'intéresse de plus près aux interactions de toutes les planètes du système solaire par rapport à la vie sur Terre, et même de notre système solaire par rapport aux constellations. Donc c'est une ouverture, même si on ne comprend pas tout, même si une vie ne suffit pas à tout étudier, ça ouvre des perspectives, et puis on peut faire des petites recherches. Et puis l'histoire des préparats, les préparats, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. On n'est pas tributaire d'un marchand de produits bio, enfin fustides bio. On peut le faire vraiment soi-même. C'est un peu une école d'autonomie. Et cette école d'autonomie, je trouve ça intéressant. Voilà pourquoi en 81, le pas vers la biodynamie. Et puis 88, ça c'était une étape, parce qu'à l'époque on chaptalisait encore, hein. On chaptalise encore aujourd'hui, pas on personnellement, nous, je parle en Alsace, quand il y a des blocages de maturité, quand il y a des années de grande sécheresse par exemple. Et ça, c'est un truc qui, on ne l'a jamais beaucoup pratiqué sur le domaine. Mais j'ai 88, non, c'est terminé, quoi qu'il arrive. Et j'avais des clients en Allemagne à l'époque, ils disaient toujours, oui, les mains d'Alsace sont trop, trop lourdes. Et je dis, bon, écoutez, OK, le moment venu, il y aura peut-être des vins légers. Alors, ils ont quand même un peu retourné leur veste. Donc, je ne sais plus quelle année. Ben, 88, il a beaucoup plu. 78 aussi. Je ne sais plus quelle année, mais il y a eu une année où, effectivement, j'avais des vins à 9,5 degrés, 10, 10,5 degrés, 11. Donc, pas de chaptalisation. Ça, c'était aux environs de 88. Ou un peu avant. Et là, ils ont quand même un peu retourné leur baisse. J'ai dit, bon, ça y est, maintenant, goûtez. Vous vouliez des vins légers, voilà des vins légers. Qui étaient sympas quand même. Il y avait une forme de maturité. Ce n'était pas des vins qui avaient des acidités qui transperçaient l'estomac. Hein. Mais c'est plus facile d'en parler qu'après de les vendre. Et puis, il y a une niche de gens qui veulent des vins un peu alcoolisés. Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas nombreux, quoi. Donc, quand on a vraiment le vin léger, on n'a finalement pas assez d'amateurs de vin léger, quoi. Donc, tout ça, c'est... À force, on arrive à mieux comprendre ce que souhaitent les importateurs et surtout les limites de ce qu'ils peuvent faire. 88, c'était ça. 99, les premières cuvées, deux, pour commencer, totalement sans sulfite. Et puis après, assez rapidement, on en a fait... plus, et aujourd'hui on est à 90% du volume qui est sans sulfite ajouté, sans rien d'autre. On arrive de temps en temps à faire des vins avec sucre résiduel. On goûtera tout à l'heure en haut un 2019 botrytisé, on l'avait trié. Et ça, c'est un botrytis en 19 qui est arrivé entre le 1er et le 10 août. Donc, ce champignon, botrytis cinerea, a concentré le peu de sucre, parce que début août, il n'y a quand même pas encore énormément de sucre, ce n'est pas encore le moment des vendanges, il y a déjà du sucre. Ça a concentré ça, mais ça a aussi concentré encore le beaucoup d'acidité qu'il y a jusqu'au 10 août. Et cette combinaison de ce sucre encore faible et d'acidité élevée a fait que au final on avait un vin à cause du botrytis, donc où il y avait beaucoup de sucre mais énormément d'acidité et un pH bas, et ça on a pu le tenir sans sulfite à cause du pH. Le pH, c'est la clé de voûte des vins nature. Plus quand on approche des pH 4, des vins ils sont fragiles. Autre étape, 2002, année où on en avait un petit peu fait le tour des bouchons en Liège.
Alors je te coupe juste, ça, c'est la grande question. Pourquoi la capsule ? Tout le monde me dit, si tu vas voir Jean-Pierre Frick, il faut qu'il nous explique pourquoi la capsule. Parce que je me rends compte que dans les bars, parfois, ils ont un peu de mal à expliquer les choses. Parce que pour les gens, pour le pétnat, c'est normal. Pour une bière, c'est normal. Mais donc, allez, on fait comme un effet cinéma. Pourquoi la capsule ?
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse, il n'y a plus qu'à continuer.
Voilà, messieurs. Oui, mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Ça, c'est la grande question. Pourquoi la capsule ? Tout le monde me dit, si tu vas voir Jean-Pierre Frick, il faut qu'il nous explique pourquoi la capsule. Parce que je me rends compte que dans les bars, parfois, ils ont un peu de mal à expliquer les choses. Parce que pour les gens, pour le pétnat, c'est normal. Pour une bière, c'est normal. Mais donc, allez, on fait comme un effet cinéma. Pourquoi la capsule ?
La capsule, en fait, c'est qu'une transposition d'une bouteille de crémant ou de champagne à un vin tranquille. En champagne, ça fait 60 ans qu'on utilise la capsule. Et le bouchon, les gens oublient ça. Le bouchon en liège sur un crémant ou un champagne arrive après le dégorgement qui se passe généralement 3 à 6 mois avant la date de mise en vente. Alors, pourquoi ne pas le mettre sur des vins tranquilles, tout simplement ? Parce que le bouchon classique en liège, alors il y a eu une période noire, c'était les années 90. Il y avait une demande mondiale très importante. Les bouchonniers ont commencé à utiliser des parties basses, des écorces qu'ils n'utilisaient pas. Et les bouchons extrêmement chers étaient toujours de grande qualité. Aujourd'hui, les bouchons sont meilleurs qu'il y a 20 ans. Parce que comme il y a maintenant aussi les synthétiques qui sont arrivés, ils ont dû un petit peu resserrer les boulons, comme on dit, et être un peu plus rigoureux. Néanmoins, moi j'aime bien les vins anciens, j'en ai un certain nombre de différentes régions, de copains, d'Italie d'ailleurs. Quand j'ouvre des bouteilles qui ont 20, 25 ans, je n'exagère pas, il n'y a qu'une bouteille sur trois qui est impeccable, qui est sans péché, où j'ai vraiment le vin. Il y en a une sur deux où, voilà, un vin qui a 25 ans, le respect de l'âge, on dit oui, quand même, et puis bon, c'est peut-être un peu... oui, l'âge, mais on sent très bien quelqu'un d'exercé que c'est une influence de Liège, et une sur trois est vraiment pas bonne à cause du Liège. Et ça démarre dès 5 ans. Dès 5 ans, le gars qui, je sais pas, moi ce soir, il a une grande fiesta, il invite plein de copines, de copains. Et, je sais pas, il y aura des choses simples, voilà, il va servir un vin blanc et un rouge, avec un premier plat, et il lui faut 6 bouteilles, vu le nombre de personnes. Donc il a un carton de 6 en cave, au bout de 5 ans déjà, s'il ouvre les 6 bouteilles ne seront plus identiques. Je ne dis pas qu'il y aura forcément un goût de bouchon, mais il y en aura une qui sera un peu plus amère, une qui sera un peu plus look, comme on dit en alsacien, où le vin est un peu plus vide, sans vraiment avoir une caractéristique carabinée de goût de bouchon. Au bout de 10 ans, c'est accentué, 15 ans plus, 20 ans plus. Et puis après, quand le bouchon est totalement exploré sur toute sa hauteur, c'est rarissime que les vins n'aient pas d'impact. Ça arrive, mais c'est rarissime. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. On en avait marre, irrité, de ces détériorations liées au liège. Surtout pour des gens qui ont envie de garder un peu les vins. J'ai ouvert, j'avais des journalistes italiens en début de semaine et coréens. Et donc, effectivement, la question est venue aussi, capsule, pourquoi, comment. Et l'Italien disait, ouais, bon, et puis les vins nature, ça se garde pas et tout. J'ai ouvert une bouteille de 20 ans, en 2002, et qui avait du sucre résiduel, et qui a tenu. Et il était surpris, agréablement, mais il était étonné. Il n'y croyait pas. Et d'ailleurs, pourquoi on mettait de la cire ? Aujourd'hui, ça fait bien. Voilà,
c'est beau.
Voilà. Mais la cire, on ne la mettait pas sur les vins. À l'époque, on parlait de vins de consommation courante. Ça ne se mettait pas là-dessus, puisque le bouchon n'était pas censé devoir être impeccable pendant 5, 10, 15 ans. C'est les grandes appellations. Les vins au grand potentiel de garde... On mettait la cire, pourquoi ? Parce que le liège, il perd de son élasticité et qu'il y a trop d'oxygène qui arrive. Les vins nature, on dit « oui, mais avec la capsule, c'est très étanche, est-ce que le vin ne manque pas d'air ?» Si le vin manque d'air, c'est parce que je n'ai pas bien fait mon boulot avant. C'est parce que je n'ai pas voulu soutirer. C'est parce que je voulais le protéger à la mise en bouteille où il a de l'air, alors que c'est absolument pas nécessaire. Sur notre machine à mettre en bouteille, on avait un dispositif qui faisait une petite injection de gaz carbonique. Hein, juste un petit pchit comme ça, pour chasser l'air. Mais je l'ai enlevé très rapidement. Parce que, en fait, l'air, ce petit air qu'il y a, il est nécessaire au vin. Et le soutirage est nécessaire au vin. Voilà. Après, il y a des gens qui disent, ils ne soutirent jamais, ils mettent en bouteille directe sur le lit entière. Là, je reviens à l'histoire de la sincérité. Bah, si eux pensent que c'est mieux et que eux sont satisfaits, leurs clients sont satisfaits, c'est parfait. Pourvu que les gens soient heureux. Il n'y a pas une méthode universelle qui est la méthode. Il y a des lignes directrices. Un vin nature, il y a malheureusement des vins nature qui ne sont pas tous bio. Ça, je trouve ça un peu regrettable. On dit oui, mais ouais, c'est quasiment bio. Bon, ok. Alors, si c'est quasiment bio, fais le pas complet, quoi. Vas-y, mon gars, fais le pas complet. Tu te mets en bio. Ah oui, mais c'est de la paperasserie. Il y a quand même un petit crédit d'impôt qui paye le temps passé à la paperasserie. Voilà. Ça, c'est quand même un peu pour le respect, je dirais, de l'amateur de vin.
Peut-être qu'on pourrait parler déjà du vin qui est devant nous, parce qu'en fait, je crois que c'est le vin dont la bouteille était cassée, c'est ça ?
Donc, dans le sud Alsace, on a eu beaucoup de précipitations l'année dernière. On a eu 2 mois pratiquement sans feuilles sèches. Et nous avons perdu 3/4 de la récolte. Et donc, les deux préfets alsaciens ont déclaré toutes les communes d'ailleurs viticoles en calamité agricole, donc sinistre climatique, et dans ces conditions on peut acheter du raisin, et donc ça c'est du raisin exceptionnellement, donc qu'on a acheté chez un collègue Jean Dreyfus, domaine Fischbach, d'ailleurs c'est marqué Fischbach sur l'étiquette pour distingué.
C'est très bien.
Donc, il y a Pierre Frick, puisque c'est nous qui l'avons élevé. Mais, donc, c'est marqué Fischbach.
C'est le Grau Reben chez Fischbach. Le Pinot Noir, c'est ça, c'est le Lili.
Je ne sais même pas le nom de la
partie. Enfin, son Pinot Noir, c'est Grau Reben, c'est qui est pour moi l'un des Pinot Noirs que j'affectionne le plus. Et juste pour situer Jean Dreyfus, il a fait le podcast aussi. Et c'est le barbu qui a un rire qu'on entend de loin quand on est sur un salon et qui est donc à Trenheim et donc c'est le domaine Fischbach. Alors juste pour resituer, c'est un domaine dont sa mère s'est occupée, sa grand-mère s'est occupée et que lui il a repris et qui reprend avec un talent qu'on lui connaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors moi c'est vrai que Pendant des décennies, je suis pas si vieux non plus, mais pendant des années, je ne buvais plus de Pinot Noir. Je trouvais ça d'un plat. Et depuis que je bois beaucoup plus de vin bio, biodynamie, nature, moi le Pinot Noir, je trouve qu'il a pris un envol en Alsace qui est assez incroyable.
Mais nous avons en Alsace de très beaux terroirs. Il y a eu une petite manifestation entre deux confinements à Bach, puisque Bach est l'une des deux communes qui a revendiqué son grand cru en Pinot Noir. Et ils avaient organisé, parce que l'INAO n'a pas tout de suite voulu, parce que la moyenne des prix, enfin, il y a différents critères. Et il faut aussi que le prix moyen soit plus élevé qu'un Pinot Noir classique. Et à l'époque, l'INAO a fait une petite erreur de calcul. Ils ont dit oui, mais ils n'y croient pas assez à leur grand cru. Et alors, ils se sont un peu bougés. Enfin, ils sont toujours bougés là-bas. Et ils ont organisé une petite manifestation qui s'appelle Alsace Terre de Rouge. Et ils ont invité d'autres vignerons qui sont un peu disons, un peu plus passionnés de Pinot Noir que la moyenne. Et Antoine Kreidenweiss aime bien nos Pinot Noirs et il m'a dit écoute, si tu veux, c'est sur une journée ou deux, je ne me rappelle plus. Moi, je dis écoute, c'est pas le bout du monde, hein, je viens, et c'était très chouette. Et donc, on a présenté que des Pinot Noirs d'Alsace pour montrer que il n'y a aucune honte à avoir en Alsace. Il y a des coins qui sont superbes pour des rouges. Version léger ou version puissant, version boisée ou pas boisée, hein. Ça, c'est comme la peinture, la musique. On peut aller dans différents styles.
Non, mais c'est vrai que c'est nous, le vin nature sublime souvent des cépages qu'on a un petit peu désuets, par exemple le sylvaner. Alors, je sais que tu aimes beaucoup le mot terroir, enfin tu parles beaucoup de terroir. Souvent, on a tendance ces derniers temps, enfin c'est l'impression que j'ai, à opposer cépage et terroir. Alors, quelle est pour toi la place du cépage aujourd'hui au niveau du vin ?
Il faut se garder de trop évaluer, si, mais de juger les vins. Il y a des vins plus légers qui sont... Moi, j'aime beaucoup la notion de saisonnalité, qui sont vraiment... qui apportent beaucoup de satisfaction, de bonheur. Un pinot noir léger, quand il fait chaud, comme actuellement, ça a un côté printanier, rafraîchissant. C'est sûr que si on est au mois de janvier et qu'il fait moins 10... on aime bien des vins un peu plus profonds, un peu plus charpentés. Mais est-ce que l'un est vraiment plus grand que l'autre ? Est-ce que une viande de poule est supérieure à une viande de bœuf ou vice-versa ? Un jour, on mange de la poule et un jour, on mange du bœuf. Ce sont d'autres styles. Est-ce que certaines musiques de jazz sont moins dynamisantes que certaines œuvres classiques ou vice-versa. On n'a pas le même besoin tous les jours et l'alimentation change un peu au moment des saisons. Donc, on peut très bien aimer du léger et du plus puissant. Il se trouve néanmoins qu'il y a des sols qui... par leur constitution, produisent des vins sol et exposition plus légers, plus aériens, et d'autres plus lourds, plus terrestres. Parce que un sol riche ou un sol très, très asséchant, un sol, une exposition précoce ou tardive, ça donne des vins différents. Alors, n'oublions pas aussi que il n'y a pas que le sol et l'exposition et le climat qui fait partie du terroir, mais les humains aussi. Parce que sur un même terroir, au sens géographique, topographique, on peut avoir trois vignerons et on pourra avoir trois expressions différentes. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt angoissé et qui veut vraiment protéger son vin, il part peut-être une bonne intention, et qui au moment de la mise en bouteille va mettre 30-35 mg de SO2, son terroir s'exprimera pas comme un autre qui lui a peut-être plus confiance, a suivi son vin et en mesure d'essuyer la critique de l'un ou l'autre académique, dégustateur académique qui va dire oui, mais ton vin est un peu fatigué, etc. Alors que le terroir est le même. Donc le bonhomme ou la dame, les humains font partie du terroir. Et c'est d'ailleurs c'est la seule partie pensante du terroir. Et donc le terroir, c'est une alchimie très complexe. Alors, du terroir, il y en a toujours, puisque de la terre, il y en a inévitablement. Simplement, il y a certains sols, certaines roches, qui apportent des singularités plus grandes. Voilà. Et quelquefois, et c'est ce qu'on demande, ce qu'on recherche dans les vrais grands vins de terroir, c'est que la singularité du sol peut quasiment effacer le côté terroir. Et où on est là, et l'objectif n'est pas de dire mais est-ce que ça c'est un Riesling ou est-ce que c'est un Sylvaner ? Et on s'en fiche au fond. Mais quand on commence à hésiter, on va en goûter un là, tout de suite. Quand on commence à hésiter et que 70% des gens... Moi, je fais toujours goûter à l'aveugle parce qu'il faut que les gens soient libres. La dégustation, c'est quelque chose de sensoriel, d'émotionnel. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on commence à cogiter, qu'on entre dans la sphère mentale. Il ne faut pas commencer par la sphère mentale, à mon avis. Et ça nous coupe l'imagination. Quelqu'un qui goûte à l'aveugle, Alors, il regarde une couleur. Si c'est un pinot gris macéré, il y a des gens, tout de suite, ils commencent à imaginer que c'est oxydé, parce que c'est une couleur qu'ils ne connaissent pas. Alors, au lieu de se laisser surprendre, voire emporter par cette couleur qu'ils ne connaissent pas, par les arômes, non, ça y est, le cerveau, là, il turbine à fond. Ah oui, on est chez un bio, chez un nature. Ah oui, donc c'est peut-être de l'oxydation. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment goûter un maximum à l'aveugle et de se laisser surprendre. Alors, c'est une question de génération un peu aussi. Parmi les 30, 40 nerfs, généralement, les gens, ils disent « Oh, la belle couleur voilà. !» La première chose, c'est qu'ils sont assez dégagés, ils sont libres. « Ah, c'est une belle couleur, ça !» Puis hop, ils mettent le nez. Ils ne commencent pas par réfléchir. Déguster du vin, pour une fois, on a la chance de ne pas être obligé de réfléchir au début.
C'est bien, non?
Quand on prend la route, il faut se dire, bon, est-ce que mes pneus sont gonflés? Est-ce que j'ai attaché la ceinture? Est-ce que j'ai assez de carburant? Quand on fait un travail, est-ce que j'ai bien posé l'échelle? Est-ce que j'ai tous les outils qu'il me faut? Il faut tout le temps réfléchir, c'est bien. Et là, enfin, on a une discipline où, au début, après, si on a envie de réfléchir, c'est très bien, mais au début, il suffit de se laisser emporter. C'est comme quand on écoute une musique. Est-ce que, par exemple, en musique classique, est-ce qu'on est obligé de découvrir qu'il y a 7 violons ou 11? C'est pas important. Si la musique me transporte, elle me transporte. Après, si je suis spécialiste en musicologie, ce qui n'est pas mon cas, bon, on peut se poser les questions. Moi, du moment que la musique, elle m'emporte, voilà, que demande le peuple, je suis heureux. Aimer, pas aimer, il y a des choses. J'aime beaucoup Le Petit Prince. Dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de vécu ou de réalité qu'il faut apprivoiser. Il y a l'inconnu et il y a certains inconnus qu'on ne peut pas tout de suite dire j'aime. Et donc, il y a une phase, le petit prince et le renard, apprivoise-moi. Voilà. Et donc, on n'est même pas obligé d'aimer, mais de se laisser surprendre et peut-être de dire alors, ah, oui, je suis très surpris. Moi, ça m'évoque une forêt en automne. Ou, là, la dernière fois que j'ai marché dans le sud, sur des cailloux chauffés à blanc, voilà ce que ça m'évoque. Ça, c'est intéressant. Ou alors, même si on ne sait pas encore dire si on aime ou on n'aime pas, dire, tiens, dimanche, je cuisinerai bien ça, avec ce que j'ai dans le verre. Voilà. Et puis après, le fait d'aimer, aimer d'ailleurs, c'est un apprentissage.
Exactement.
On n'est pas, d'ailleurs la preuve, c'est pour, si on savait aimer, on ne se taperait pas sur la gueule au niveau planétaire, on est le même genre humain et on ne cesse de, et si on ne se tape pas directement sur la gueule, l'un essaie de rouler l'autre, de voilà, profiter de lui. Donc aimer, dans tous les domaines, ça s'apprend. Hein.
Et on organise.
Il y a une base donnée, mais il y a une base aussi à travailler.
Et on n'organiserait pas des compétitions sportives dans des pays où l'être humain n'est rien. Ben, bon, allez, on va parler du vin. Ben, on va parler terroir, tiens. C'est important parce qu'on est quand même dans un grand domaine. Alors, moi, j'ai envie de te dire sur les deux. Bon, le premier, je savais que c'était Fischbach. Donc, de toute façon, j'étais un peu comme je connais. Là, moi, je trouve que on est sur un vin avec une belle acidité, mais un très bel équilibre. Pour moi, c'est vraiment. On a, en fait, c'est un vin qui est venu beaucoup en bouche et qui, moi, il m'a donné des frissons. En général, quand ça commence par des frissons, c'est comme une belle chanson. C'est plutôt bon signe. Tu voulais nous en parler, ce vin?
Simplement, ce que je voulais dire, c'est que voilà deux terroirs différents et à ne pas hiérarchiser. Parce que moi, ça, c'est plutôt le second. C'est un vin que j'apprécierais davantage automne-hiver. Et le premier, je l'apprécie davantage printemps-été. Ça me semble important. On n'a pas besoin de dire... Après, on peut aller dans les profondeurs, dans les vibrations. il vibre un peu plus, celui-là. Alors, les gens qui disent « Attends, il n'y a pas de vibration dans le vin », quand on parle de vibration, c'est un peu ce qui se passe. Le premier a un toucher de bouche plus lisse.
Très velours, en fait.
Voilà, et ça, c'est un toucher de bouche un peu plus... avec plus d'aspérité, avec plus de relief. Hein. Et alors, les uns sont plus séduits, justement, par un toucher de bouche lisse, et d'autres recherchent davantage un peu les aspérités, pourvu que les gens soient heureux. Également, bah, comme les deux précédents, non filtrés, sans sulfite, sans aucun ajout. Alors, ce qui est peut-être intéressant pour les auditeurs, c'est que quand vous ne mettez pas de sulfite du tout, à 95%, les vins font inévitablement la malolactique. Alors, sur les pinots noirs, classiquement, on la recherche. Sur les blancs, dans l'histoire récente, pas dans l'histoire ancienne, mais dans l'histoire récente, on ne cherchait pas forcément la malolactique, et particulièrement pas sur les Riesling. Et donc, dans ce cas-là, il faut soutirer assez tôt, et la plupart des gens mettaient du soufre pour inhiber les bactéries de la malolactique. Ce vin-là, par exemple, que nous avons dans le verre, a fait la malolactique. Hein. Et tous nos blancs, ou pas blancs, font la malolactique. Donc, et la malolactique est également une source supplémentaire de stabilité. L'instabilité du vin vient de deux origines. David Lefebvre, qui s'intéresse beaucoup au vin, qui est journaliste dans différentes revues, l'Est agricole, mais pas que, lui, il dit toujours il faut que le vin perde son carbone. Le carbone, c'est la base de la chimie organique. C'est d'ailleurs la pierre philosophale des alchimistes. Et puisque le diamant, par exemple, c'est du carbone, c'est la forme la plus pure. Et l'anthracite, le charbon, c'est du carbone aussi. Hein. Donc le carbone, il est multiforme. C'est vraiment la base de la chimie organique, donc de la nature. Et bah, le sucre contient évidemment des atomes de carbone, et la fermentation modifie cette instabilité du carbone du sucre en une stabilité dans les molécules d'alcool. Et l'acide malique, dit Apfelsäure, l'acide de la pomme, hein, a deux fonctions acides, et les bactéries malolactiques découpe en fait l'acide malique et en font de l'acide lactique, Milchsäure, l'acide du lait, choucroute, par exemple. D'ailleurs, on dit quelquefois, il y a des mains qui sentent la choucroute. Et il se peut, alors c'est une phase qui n'est pas forcément la plus agréable du vin, ben il suffit de le soutirer, mais parce que, en fait, ce sont les mêmes bactéries qui font la transformation comme la choucroute ou le navet confit, les légumes lactofermentés. Et donc, quand cette deuxième fermentation bactérienne, cette fois-ci, est faite, eh ben, le vin est beaucoup plus stable. Et il y a une partie, parce que donc il reste l'acide lactique, mais l'acide carbonique, sous forme de CO2, acide carbonique, il part dans l'air. Donc, on perd du carbone. Et plus on perd de carbone dans un vin, moins il est organique et plus on s'approche de la minéralité.
En tout cas, le vin que tu nous as servi, c'est purement les vins que moi j'appelle ceux qu'il faut boire, mais avec une pleine conscience, vivre le moment présent, vous fermer les yeux et juste profiter, parce que bah, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, on ressent encore une fois cette caresse. Ce velours qui vient, je veux même pas savoir, à la rigueur, le cépage, finalement, on s'en fout. Alors, je sais juste que je vois sur le Bergweingarten. Alors, j'ai essayé la traduction, jardin du vin sur le mont.
Jardiner sur la colline.
Jardiner sur la colline, ouais. En plus,
pourquoi jardiner? parce que c'est une vigne proche. Garten, c'est jardin. Et Weingarten, c'est la vigne jardinée. Et il y a le Patergarten à Kinsheim, il y a le Engelgarten à Bergheim. Les gartens sont toujours proches des villages.
Weingarten à Eigenstein.
Oui. Et pourquoi Garten? Parce que les anciens y allaient. Donc il n'y avait pas de voiture, on y allait à pied. Quand on ne pouvait plus monter sur la carriole ou y aller à cheval, il n'y avait pas de kiné non plus. Les anciens, ils faisaient leur petite promenade quotidienne. Et puis, ils bricolaient un peu, ils taillaient, plus tard, ils palissaient. Mais pratiquement toujours dans la même vigne, parce que c'est la vigne la plus proche. Et en fait, toutes les vignes en Garten sont toujours proches des villages. C'était la vigne des anciens. Et pendant ce temps, les jeunes, avec la carriole ou à cheval, allaient plus loin et ils s'occupaient des vignes plus éloignées. Voilà. Donc Bergweingarten, c'est à 800 mètres, 700 mètres au-dessus du village. C'est une exposition sud-est. C'est un sol très calcaire, assez proche du Steinert. Beaucoup de calcaire. Et on sent vraiment un côté caillouteux qui reste une saveur assez longue de cailloux. Et alors les gens, nous on le vend comme Bergweingarten. Il n'y a pas de mention de cépage. Alors, il y a des gens maintenant qui connaissent ce terroir et cette cuvée. Et il y en a d'autres toujours. « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Je dis « C'est du Bergweingarten. »« Ah, mais pourquoi ?» Je dis « Vous savez, au Moyen-Âge, on achetait du riz cuir, on achetait du Trenheim, on achetait du Sulz, voilà. Il y a un siècle, on avait plus de 100 cépages en Alsace. Hein ?» Donc, on achetait tel village et on savait que dans tel village, les mains étaient un peu plus charpentées, donc on les prenait l'hiver. Dans tel village, ils étaient généralement un peu plus nerveux, donc on les préférait par période chaude. Et c'est comme ça que ça se passait. Et il n'y avait pas une litanie de 25 cépages. D'ailleurs, les vignerons eux-mêmes, souvent, ne savaient pas exactement, ils n'étaient pas capables d'identifier tous les cépages. Et c'est qu'à partir de 62... Quand l'Alsace est passée en appellation contrôlée, qu'il y a eu un appauvrissement considérable quant au cépage. Donc maintenant, nous sommes un certain nombre à essayer de remettre en avant cette notion de terroir, de lieu. Hein. Quand vous achetez un pommard, bon après, là-bas, c'est pas tout à fait. Bourgogne, c'est un peu plus simple. Ils ont deux cépages. Et un là qui est blanc et l'autre qui est rouge. Mais disons, les gens, ils vont pas demander si c'est du Merlot ou du Pinot Noir ou du Cabernet Franc. Voilà. Et donc, en fait, ce Bergweingarten-là, qui pratiquement tout le monde dit que c'est du Riesling, en fait, c'est un pur Sylvaner.
Ah ah. J'étais parti sur le Riesling aussi, mais bon, j'aime beaucoup le Sylvaner.
De petits rendements, ça c'est du 30 hectolitres à l'hectare et sur un sol, un terroir, une exposition singulière. Voilà, singulier, donc c'est pas, ça ressemble pas à d'autres choses, c'est l'objectif des grands crus.
Alors, tout à l'heure, tu parlais.
Premier cru, ça c'est un candidat premier.
C'est un peu un candidat premier cru, oui. On continuera la discussion autour de la table, ça sera tout aussi sympa. Bon, on se retrouve en haut.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Good morning. Eh oui, je voulais prendre un peu de temps pour vous remercier d'abord d'être plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast en France et dans le monde entier. Franchement, merci. Maintenant, je vais te mettre à contribution. Je voudrais qu'à la fin de l'épisode, tu prennes 30 secondes pour mettre sur Spotify et Apple Podcast une note, 5 étoiles, un commentaire, de préférence 5 étoiles parce que c'est toujours mieux. Sacré référencement Google.
partage le podcast, partage-le dans les stories. Tu peux m'écrire également sur michael@duraisinetdespapilles.com avec tes suggestions, tes questions, même s'il y a des choses qui te plaisent pas, tu peux m'écrire et forcément je te répondrai. Donc si vous voulez bien mettre 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme préférée à la fin de l'épisode, franchement ça me ferait plaisir. Salut Bessom!
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Voilà, messieurs. Oui, mais comment on boit ça?
Cul sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Un crément, on va abîmer un tout petit peu les verres. Un crément sec, ça permet de bien neutraliser le palais, je trouve, pour passer des vins d'un millésime jeune, en foudre, à des vins qui sont déjà en bouteille. C'est un peu un autre univers. Hein.
Ouais.
Et le crémant, ça c'est de l'auxerrois, sans soufre, sans sucre ajouté, sans rien. Eh bien, il permet le crémant de vraiment changer de stade, hein, puisque les 21 en foudre sont sur l'IFIL, donc c'est une autre étape. Et là, on va goûter des vins d'une étape différente, puisque eux sont déjà en bouteille.
Alors, la couleur, parce que c'est quand même important qu'on parle de la couleur. On est vraiment sur une couleur or. C'est vraiment majestueux. Moi, j'aime beaucoup les... C'est vrai que la couleur du vin fait partie de l'histoire du vin. Hein, et c'est vrai que vous, c'est peut-être ça l'inconvénient d'un podcast, mais il y a tellement d'avantages à faire un podcast que finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est que vous ne voyez pas forcément la couleur. À vous, goûtez pas non plus. Mais c'est comme quand vous regardez une émission de cuisine. Hein, finalement, vous ne mangez pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on va vous donner vraiment l'envie. C'est toujours vous donner l'envie. On va essayer de reproduire au mieux nos dégustations pour vraiment que vous ayez aussi l'envie de goûter les vignerons. On a la chance, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais d'être quand même écouté dans tous les pays du monde. Je voudrais quand même saluer en ce moment les auditeurs ukrainiens qui, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, sont de plus en plus nombreux. Qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas s'ils ont la chance. Je pense que c'est un petit peu compliqué de trinquer en ce moment, mais on va trinquer pour eux aussi, également. On parlait. C'est une question que je voulais te poser parce que on parlait tout à l'heure de sans cépage qu'avait l'Alsace il y a un siècle. Et j'ai rencontré un jeune réfugié afghan qu'on a enregistré qui s'appelle Haroun.
Je le connais, oui.
Que tu connais, et qui est un passionné des cépages oubliés, résilients, interdits. Est-ce que ça te choquerait, je pense, c'est une question un petit peu plus provocante, mais est-ce que ça te choquerait, dérangerait, qu'à un moment donné, certains de ces cépages puissent être replantés en Alsace?
Pourquoi pas aller vers de nouveaux cépages à nouveau? Là, pareil, il s'agit juste de transparence. Il faut dire ce que c'est et pourquoi on le fait, et vive la diversité, vive la pluralité. Il n'y a aucun souci. Le problème, en Alsace, on est plus royaliste que le roi et plus catholique que le pape. Et de ce fait, en général en tout cas, et de ce fait, on sanctuarise l'INAO et ses contraintes, alors que l'INAO, en ce moment, n'est peut-être plus tout à fait à la hauteur de la situation. Parce qu'il y a des vins... en fait, on demande des vins, mais qui sont sans vice, c'est vrai, mais sans grande vertu non plus. Et sans grande émotion non plus. Et il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, il y a de grands discours là-dessus sur la beauté. Qu'est-ce qu'un visage dont on se souvient, on peut voir des visages totalement burinés, ridés, de vieilles paysannes, de vieux paysans. Et ce sont des visages magnifiques qu'on garde en souvenir. Donc, toute cette culture de retoucher les photos, papier glacé et tout, c'est quelque chose qui n'est pas nourrissant. On dit c'est beau, bon, puis une fois qu'on a dit trois fois que c'est beau, il n'y a pas de profondeur. Ça n'interpelle pas au-delà de l'immédiat. Et un vin, alors on dit ah bah oui, il y a des arômes, alors si on arrive à trouver que ça sent le cassis, les gens sont heureux, voilà, parce qu'ils pensent que le cassis, c'est tel cépage. C'est comme si on était toujours en train, à l'école, en train de gagner des bons points ou des mauvais points, si on reconnaît ou pas. Et cette histoire-là est un peu fatigante. Et liée là-haut est quand même un peu des défenseurs de cette manière de voir et de dire que un petit d'abord qu'est-ce qu'un défaut, disons une singularité, c'est ça qui apporte un charme au-delà et qui fait que on a envie de revenir à un vin. Moi, il y a des vins techniquement parfaits. Mais j'en ai plus un demi-verre, on me propose, on me dit t'en veux. Si en face il y a autre chose, je dis gentiment, je dis non, c'est bon, je l'ai saisi, je préfère goûter autre chose. Parce que j'en ai fait le tour en un demi-verre, ça me suffit largement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a d'autres vins où il faut un peu, on parlait tout à l'heure de s'apprivoiser. Ou je ne sais pas tout de suite, il m'émeut, il me surprend, il peut même me perturber. Et là, je vais en reprendre pour apprendre à mieux le connaître. Mais ça signifie qu'il y a un partage, il a quelque chose à me donner, même si moi je ne comprends pas encore, ou si je ne perçois pas toutes les subtilités. Alors que le vin, théoriquement standard, techniquement parfait, que je le reprends à trois fois, voilà, j'en ai fait le tour, il ne me raconte plus rien de neuf, j'en ai marre.
Exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent, souvent on essaye, les gens qui ne trouvent pas les... Moi c'est pareil, ils me disent, mais tu ne nous parles jamais d'arômes. Ben non, ce n'est pas très grave si tu ne trouves pas les arômes. Déjà, si tu aimes le vin, c'est déjà une bonne chose. Et c'est tellement, et je trouve qu'on a tellement... Et c'est peut-être là où le vin, c'est un petit peu perdu, c'est qu'on a enfermé les gens dans des cases, le nez, la bouche... les yeux, alors qu'on a juste oublié une chose essentielle, c'est ce qu'on ressent. Bon, tu parlais tout à l'heure de musique classique. Oui. Je sais que Chantal écrit des poèmes, mais c'est pareil. En fait, c'est l'émotion que donne une œuvre, un plat. Moi, je peux goûter des plats à l'aveugle. Après, à la fin, j'aime bien savoir ce qu'il y avait de bien.
C'est
tout à fait normal. Mais au final, c'est le sens de l'histoire. C'est juste, n'ayons pas peur de nos propres émotions. Et je trouve qu'on est devenu peut-être une société un petit peu trop individualiste, mais qui a peur de ce qu'on ressent.
Ouais. Oui, oui.
Et j'aimerais rebondir sur le fait. Donc, quand on n'a que le son et qu'on ne voit pas. Ça, c'est comme le roman et le cinéma. Moi, j'aime lire et j'aime le cinéma aussi. Mais dans la pédagogie de Rudolf Steiner, donc qui a donné les bases aussi de la biodynamie, dans cette pédagogie Waldorf, on dit que c'est très précieux de lire des contes aux enfants. Et donc, il y a un chevalier et il y a une princesse. Si on voit ça au cinéma, le chevalier, il a forcément une taille, une couleur de cheveux, une couleur des yeux, un physique donné. La princesse aussi. Elle est blonde, elle est brune, elle est rousse, elle est bigarrée, je ne sais quoi. Alors que quand je lis le conte, ou quand l'enfant entend le conte que je lui lis, c'est lui-même qui forme l'image de la princesse avec son imagination à lui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, dans des vins, on peut avoir aussi le côté très intellectuel. C'est comme si on a tout de suite une image avec des graphiques, des analyses et tout. Et d'un autre côté, quand on ne sait pas d'emblée ce que c'est le conte, c'est entendre quelqu'un qui lit, et moi-même, j'essaie de dire, mais oui, je ressens plutôt du végétal, et c'est plutôt dans telle direction, ou ça me rappelle une région, ou un paysage, voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut qu'on laisse place à nos émotions un petit peu plus. Bah, pendant que tu nous sers le vin, je voudrais qu'on passe un petit peu à la partie que j'annonçais au départ. Je voudrais avoir ta vision, enfin, ton retour, ton ressenti quand tu vois. Alors, tu es dans plein de salons, tu en as créé certains, tu participes à d'autres. Aujourd'hui, si je prends l'association des vins libres d'Alsace, ceux qui ont organisé le Sommerfest, il y a de plus en plus de jeunes. La semaine dernière, j'étais à Guerdevillers chez un jeune de 20 ans qui va commencer à vinifier ses premiers vins. Alors, ça va être une grosse bataille avec les anciens, etc. Bon, t'as tout ce que tu as vécu, il est un peu en train de le vivre où on lui dit non, mais tu sais, ça ne marchera pas. Et on a de plus en plus de jeunes vignerons, mais aussi de vigneronnes. Je pense à Anaïs Fonti, je pense à d'autres, des femmes qui s'installent de plus en plus. C'est quoi ton regard de sage un peu sur cette jeunesse passionnante, passionnée qui arrive, soucieuse de l'écologie, qui font de la biodynamie avec cœur, avec passion, qui font des vins avec cœur, avec passion? C'est quoi le regard que tu portes sur cette jeunesse-là?
Ben, moi, je trouve ça extrêmement réjouissant. Ça fait beaucoup de bien. Ça apporte du bonheur. On sent qu'il y a une force, une espèce de presque de rébellion. Et on en a besoin dans ce monde numérisé, standard, de conquête. Et j'aime beaucoup cette prise de risque, parce que c'est quand même une prise de risque. Donc c'est totalement réjouissant de voir ce phénomène qui prend une très belle ampleur. Ce que j'ajouterais, c'est que, et c'est peut-être notre rôle d'ancien, quoique nous sommes partagés, on ne partage pas tous exactement la même approche, et c'est très bien, l'histoire d'aller en vin de France facilite un peu les choses. Néanmoins, j'encourage ces jeunes à quand même, non pas à faire des vins standards, d'ailleurs, ils ne pourront pas, sinon ils abandonnent. Et donc, je les encourage vraiment à faire continuer cette voie, mais néanmoins à peut-être dire, mais en quoi nos vins seraient que des vins de France et pas des vins d'Alsace et pas du vin des Kirchberg ou du Steiner, ou de tel et tel terroir, en fait, qui revendique quand même le droit du sol. Et que l'INAO et les commissions, avec ces dégustations externes, disent oui, c'est pas bien, je pense qu'il y aurait une petite lutte à mener, nous, au niveau de notre domaine, et quelques autres... Théo et Bruno Schlegel, entre autres, et d'autres, on dit nous sommes attachés à ces terroirs, c'est un héritage. Enfin, tout est héritage. Si nous savons parler, c'est pas nous qui avons inventé le français, ni l'alsacien, ni l'anglais, ni quoi que ce soit. Donc tout est héritage. Mais le vin, alors, il est à la lisière des arts. On l'a dit, mais ce qui est une certitude, c'est que c'est quelque chose de culturel. Et dans cette dimension culturelle, l'origine, le sol, le droit du sol, ça, j'aimerais inciter les jeunes à ne pas abandonner ça. Quitte à se bagarrer, moi j'ai écrit déjà des dizaines et des dizaines de lettres à l'INAO. C'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est fatigant. D'ailleurs, l'ABLA est en train de faire un travail un peu collectif pour essayer de remédier à ces tracasseries. Mais il ne faut pas abandonner. Parce que j'aime beaucoup les vins de Jean-Marc
Trier.
Aussi, oui. Triboulet.
Triboulet.
Bon, maintenant, toi, apparemment, tu ne connais pas Jean-Marc Triboulet.
Non, ça ne me dit rien.
Département 66. D'accord. C'est où ?
Donc Pyrénées.
Oui.
Pyrénées.
Toi, tu sais. Oui. Mais là, ils ne savent pas où c'est. Donc, on fait une dégustation de vin de France.
Bien.
On fait une dégustation de vin de France. On goûte, je ne sais pas, une dizaine de blancs et allez, une dizaine de rouges, rosés, colorés, peu importe. Et donc, on va dire, ah, bah, ça, c'est plutôt septentrional, compte tenu de la fraîcheur. Et ça, c'est plutôt méridional, dans le gabarit du vin. Mais... Et après, on pourra dire, bah tiens, puisque tout à l'heure, on va manger tel et tel légume, on va revenir sur le quatrième blanc, là, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est un légume, d'ailleurs, qu'on a dans le verre, là. On va revenir là-dessus. Et puis, après, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de carné. Ah, on va prendre ce vin-là. Mais... Ne connaissant ni Jean-Louis Triboulet, ne connaissant pas le département, bah je dis, c'est un vin du sud, ça peut être le Grand Languedoc, voilà. Et il y a toute une partie de notre imaginaire qui n'est pas activée. Si on me dit, ça c'est du Kirchberg de Bar, et j'étais une fois en tant que citoyen du monde de n'importe quel pays à Bar, et on me dit ça c'est Kirchberg de Bar, et ben qu'est-ce que j'ai vécu à Bar, qu'est-ce que j'ai mangé, avec quels gens j'étais là-bas. Et une partie du vin c'est aussi l'histoire. Ah l'Alsace, ah oui l'Alsace a eu une histoire assez tourmentée, voilà. Donc l'origine, le lieu est pas seulement dans le vin. Il peut aussi passer dans l'esprit et l'âme de celui qui déguste, mais encore faut-il pouvoir l'afficher, le lieu, et dire Alsace, et pas seulement vin de France, et dire Pfaffenheim, ou Trenheim, ou Gauxwiller, et pas seulement Alsace, et pourquoi pas dire Steinert, parce que ce que nous avons dans le vin, c'est du Steinert. Et de dire Kanzelreben ou le n'importe quel autre grand cru ou lieu dit simplement. Et donc ça c'est quand même une alchimie intérieure. Donc moi juste que j'aimerais encourager la jeune génération. Je la félicite pour son énergie, pour son indépendance d'esprit, pour sa fougue et pour leur talent. Parce que je goûte des vins qui sont quand même tout à fait remarquables. Mais n'ayons pas peur, pour des raisons administratives, de nous appauvrir culturellement. Donc gardons ce droit du sol, de parler d'Alsace. Alors je sais que Jérôme, à la grange de l'oncle Charles, bah, les douanes, voilà, t'as pas le droit de dire à Marchevire ici et ça. T'as pas le droit de dire Ribeauvillé, alors que l'eau Carola s'appelle Ribeauvillé. Donc sur l'eau, ça c'est Christian qui l'a relevé binaire l'autre jour. Mm-hmm. Il dit purée Carola, on peut mettre Ribeauvillé. Et puis moi, si j'ai une vigne à Ribeauvillé, je peux pas mettre Ribeauvillé. Donc arrêtons ces petites bêtises. Mais c'est à nous de lutter un peu pour ça.
Ouais, moi je suis assez d'accord. Moi je trouve que quand je vois certains vignerons à Molsheim qui mettent deux ailes sur Molsheim parce qu'on leur casse les pieds. Et encore une fois, on parle de sincérité, de transparence. Et c'est la question que j'ai posée justement aux concernés. Alors à Lava, j'essaye de leur poser des questions, jamais une réponse.
parle bien de lava, pas de lava, hein,
oui,
de toutes les réponses que je veux, lava, parce que pour moi, il y a des choses qui sont de l'irrigation, je ne comprends pas. L'histoire du Riesling uniformisé, je ne comprends pas. Et je trouve que si on continue comme ça...
Là-bas, on peut, à l'heure des charges, c'est un syndicat de producteurs. C'est un syndicat pour défendre du revenu.
C'est ça.
Ce n'est pas une association culturelle. Ça pourrait l'être aussi, ça devrait l'être, pour assurer... et promouvoir un rayonnement culturel, voire artistique, comme tu disais.
Exactement.
C'est un syndicat comme un autre où on défend les travailleurs de la vigne pour avoir un revenu donné. Et comme il y a des travailleurs qui vendent le raisin, il y en a d'autres qui vendent du vin en vrac, etc., etc., il y a une diversité qui est tout à fait louable. Eux, ils se bornent à ça. Voilà. Donc, c'est ni pour les défendre, ni... c'est leur statut. Et c'est dommage que ce statut n'évolue pas vers des valeurs plus larges. Et comme ils veulent défendre tous les travailleurs, et comme certains sont dans des zones où, effectivement, de manière récurrente, ils ont des pertes importantes en ne pouvant pas irriguer parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse, ils veulent aussi défendre ces travailleurs-là. Donc, vu sous cet angle-là, on peut le comprendre aussi.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Alors, ce grand cru Steinert, on va le goûter. Déjà, la couleur, encore une fois, on est sur... Alors, elle est moins or, forcément, mais éclatant, très éclatant. On a un côté très, très, très floral.
Alors, on est sur...
Et lui-là, l'explosion, pour moi, c'est un feu d'artifice où on a les saveurs, ça éclate sous la langue. Il y a tout le palais, toute la langue, il y a tout qui se met un peu comme les globules rouges quand vous avez une plaie qui se met au travail. Ben là, c'est pareil. Vous avez tout qui se met en place et puis le cerveau, il envoie une émotion. Comme toujours avec les vins de Jean-Pierre, vous avez cette émotion, cette caresse et qui finalement... On se connaît depuis maintenant 2 heures, mais on voit le personnage et c'est fou parce que avant de venir ici, je savais quasiment comment te parler, comment tu étais parce que j'ai goûté tes vins et tu parlais de sincérité tout à l'heure. Quand tu fais des vins comme tu les fais toi, tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas possible d'avoir autant d'émotions, mais aussi. Aussi, un peu cette sagesse, il est là, il vous accompagne, il vous réveille, il vous stimule, et puis vous ressentez des choses. Finalement, voilà, je ressens des choses, je ne sais même pas quel mot mettre dessus, et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est là où c'est extraordinaire. Le vin est extraordinaire. C'est vraiment une boisson qui n'est pas comme les autres.
Non, ce n'est pas une boisson comme les autres. Ça, c'est exact. C'est une boisson inspirante, ou elle devrait l'être toujours. Non pas inspirante par l'ivresse physiologique, mais inspirante par son essence même, et inspirante pour la fraternité, pour la culture en général. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des vins inspirants avec des prix, puisque tout est économique. Il vaut mieux ouvrir une bouteille rarement, mais une bouteille inspirante, que de boire du vin. D'ailleurs, un vin, ça ne se boit pas. On goûte un vin, on respire un vin. Ce n'est pas pour boire, c'est boire pour boire, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là justement que je reviens encore une fois à ces histoires d'origine, de lieu, de trouver un peu le génie du lieu, de la région. On ne fait pas du vin, on élève du vin et nous sommes que des conservateurs de ce qu'il y a. Déjà, si on arrive à ne pas banaliser l'esprit et le génie du lieu, c'est déjà un bon boulot. Et pour ça, il faut prendre un peu des risques. Parce que si on veut tout sécuriser, eh ben on amoindrit le côté vivant des vins, le côté énergétique, vibratoire, inspirant. Et donc ça, c'est, puisqu'on parlait de transparence, ça c'est un vin qui a conservé, pas macéré celui-ci, qui a conservé 4 grammes de résiduel. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la mise en bouteille, on a adjoint une dizaine de milligrammes. Donc c'est un vin nature, mmh, mais ce n'est pas un zéro sulfite.
D'accord.
Et donc, on ne marque pas un zéro sulfite, mmh, ajouté, puisqu'on en a mis. Et on met la quantité de sucre, oui, et on met la quantité de sulfite total, 17 mg. Oui. Sachant que les natures sont plafonnées, entre guillemets, à 30.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ? Voilà, messieurs. Oui, mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Tout à l'heure, j'avais parlé d'une photo, parce que souvent, quand on parle de Bruno Schuller, de Patrick Meyer, de Christian Binaire, mon copain, et de Jean-Pierre Frick, les gens me parlent toujours d'une photo, une photo qui est pour moi légendaire. Alors on a sur cette photo Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel, qui étaient de grands artistes, qui sont toujours pour moi, pour l'éternité, des grands artistes et surtout de libres penseurs. Et souvent on fait le rapprochement, nous, entre nous, à dire mais c'est souvent la photo que tout le monde rêverait d'avoir avec vous quatre. Un petit peu en noir et blanc avec l'histoire, les gens qui se sont battus, parce que tu parlais tout à l'heure de la jeune génération, mais la jeune génération, elle est très reconnaissante sur les combats que vous avez menés. Alors il y en a d'autres, hein, André Ossertag, Jean-Michel Deiss, pour ne parler que d'eux. Quand on parle de cette photo-là, de ces artistes-là, alors je ne sais pas si tu les affectionnes ou pas, bon, comme comparaison, il y a pire. Hein.
Ah oui, non, mais...
Voilà. Ça te fait quoi de... Comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre, en fait?
Bah, en fait, c'était des rencontres amicales. C'était pas des rencontres syndicales. D'ailleurs, dans l'histoire, j'aime bien, quand j'ai un peu de temps, lire, et on se rencontre, Rudolf Steiner parle de certaines choses qui, de toute façon, les germes vont éclore à un moment donné.
Mmh.
Et à l'époque où on n'avait pas encore les moyens de communication d'aujourd'hui, historiquement, on peut prouver qu'à quelquefois, à 10 ans près, mais je parle là de millénaires, dans la conscience humaine, en Asie, et par exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, à très peu d'années de différence, les deux idées similaires ont éclosé, qui ont été peut-être travaillées différemment, mais c'est venu au même moment, parce que le temps est là. Et lorsque des gens, à un moment donné, ils ont envie de faire des vins, on se rencontre, on dit... Ah bah toi aussi t'as fait ça, ah bah tiens, on va se faire une soirée, tiens on goûte, oui, parce qu'on est isolé, donc du coup on est moins isolé, ça remonte maintenant à pas mal d'années, mais ça c'est pas fait, c'était pas quelque chose d'organisé, maintenant on organise des rencontres, et on est bien se rencontrer, mais c'était assez fortuit au début, et tout à fait... amical, voilà, entre guillemets, on pourrait dire, ça, c'est des choses qui se font toutes seules.
T'es du genre à regarder en arrière, t'es nostalgique
Ou pour toi, bah, tu aimes bien regarder devant et ce qui est passé est passé. Bon, après, on construit toujours le futur avec le passé, mais parfois mal d'ailleurs. Mais t'es plutôt nostalgique, tu regardes en arrière?
Non, la nostalgie, non. Je pense que ça ne sert à rien. La nostalgie, c'est le début de la vieillesse. Et on peut mourir centenaire sans être vieux, l'esprit. Ouais. Bah, les os, les articulations, évidemment, mais ça c'est une autre manière de voir les choses, une autre réalité. Par contre, je suis pas nostalgique, mais quelquefois je suis triste.
Ouais.
La tristesse de voir justement toutes les possibilités dont jouit l'humanité et tout son génie aussi de l'humanité, et que nous sommes des géants en technologie et des nains intérieurs. Les qualités humaines, ce qu'on doit travailler, apprendre l'amour, on parlait, mais l'amour au sens très vaste, la compassion, de l'écoute des autres, là on progresse à pas de nain. Et donc ça ce sont des choses qui, des réalités, oui, par moments ça me rend triste, mais la nostalgie ça ne sert à rien. Et donc il faut, alors je rencontre, et c'est ça qui est beau et enthousiasmant dans cette équipe des jeunes vignerons qui ont cette spontanéité et cette dynamique de dire bon, le père il n'est pas d'accord, mais moi j'ai quand même envie de faire un vin comme ça. Et donc ça c'est réjouissant, et ça on le remarque dans d'autres disciplines. Il n'y a pas que dans le monde du vin, avec quand même la prudence. On vit tous un peu dans des bulles, qu'on le veuille ou non. Et quelquefois, nous, on a l'impression, parce qu'on est dans des milieux qui s'intéressent à la médecine alternative, on est souvent des gens pas vaccinés, et on l'assume. Il y a aussi une petite lutte, il y a ci et ça. Et donc, on tourne quand même dans des cercles un peu comme ça, et où la proportion, effectivement, des gens plus ouverts à ceci et cela est importante. Mais on ne rencontre probablement pas assez d'autres cercles qui ont d'autres manières de voir les choses. Pour nous, il ne faut pas qu'on soit trop angélique. Moi, je connais des gens angéliques. Alors, tout le monde connaît l'adage « change-toi toi-même et le monde changera ». Ok, c'est presque un peu prétentieux, parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Alors qu'il faut se changer soi-même, absolument,
on évolue
certainement, et c'est ce qu'on ne fait pas assez. Et je veux dire, si on veut fermer une maternité de proximité qui a sa raison d'être, pour les enfants qui vont naître, et tout simplement pour le tissu médical et social et tout, c'est pas parce que moi je vais me changer tout seul, me changer, que ça va s'arrêter. Donc à un moment donné, il faut du collectif. Il faut que des gens, des jeunes parents, se rassemblent et disent bah « Non, il nous semble illégitime, pour des raisons pseudo-financières, d'arrêter cette maternité. » Voilà. Donc, il y a transformation individuelle intérieure, mais bien sûr, on n'en fait pas assez. Mais aussi, ce ciment collectif, c'est lutte. Ouais, c'est des luttes. C'est lutte collective, quoi. Et donc, il y a plein de choses qui se font, mais ayons le discernement et ne nous illusionnons pas trop. Parce que quand on s'illusionne, on lâche un peu, on se dit « Oh, bon, allez, hop, ça se réglera tout seul. » Ça se règle tout seul ou pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de baisse de conscience et de vigilance. Et ça, c'est du travail quand même. C'est enfin, un travail, voilà. Donc je ne suis pas pessimiste, pas pessimiste, triste par moment, et ben, il faut continuer à lutter. Lutter, c'est pas se battre.
La lutte, c'est autre chose que de se battre. Et d'ailleurs, nous, toutes les belles choses que nous vivons sur Terre et tout l'héritage culturel et tout ça, c'est rarement tombé totalement du ciel tout fait. Mmh. C'est tombé du ciel, certes, et puis ce sont des gens qui ont pris ces matières brutes, nobles, en main et les ont transformées, les ont humanisées. Enfin, on parle de philo, là, mais le vin, c'est de la philo. Hein.
Justement, quand on parle de philo...
C'est de la philo, le vin.
Je vais te poser une question que j'ai posée à Arnaud Geschicht. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'on peut parler de terroir et de créativité? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y a une relation entre la créativité et le terroir, pour être plus précis?
La créativité, c'est quelque chose qui est... ce sont des inspirations que recueillent les êtres humains dans toutes les disciplines. Nous, on a un récepteur en nous et les artistes les plus géniaux, souvent, ce sont des idées ou des conceptions, on peut dire, qui étaient dans l'air, mais pour tout le monde, dans l'air de tout le monde. Et eux étaient plus sensibles et plus réceptifs, et c'est eux qui ont capté et transformer ça en peinture, en musique, etc. Le terroir, ce n'est pas nous. Le terroir, c'est un héritage. Nous, on est là déjà au niveau de la culture biodynamique, de ne pas le dégrader. Là, ce sont vraiment des fondamentaux.
Exact.
Et ensuite, une fois qu'on a le raisin à maturité, c'est une nouvelle... une nouvelle harmonie, mais qui ne peut pas durer en l'état, qui nécessite une métamorphose. Et donc, notre rôle de vigneron, en fait, c'est d'accompagner. Ce n'est pas nous qui transformons le vin, qui transformons ce fruit en une boisson inspirante, culturelle, émotionnelle. Mais nous, on est juste là pour... essayer de sauvegarder le potentiel. Et donc, on est plus accompagnateur que créateur.
Ok.
Créateur, c'est un peu prétentieux, à mon avis.
Ben, on va parler du vin que tu nous as...
On va goûter deux fois le même.
Oui.
Donc, ce que tu as dans le verre, c'est ouvert du 16. Mmh. 17, 18, 19, 20, 21, donc 6 jours d'ouverture.
Oui.
À peu près à la moitié de la
bouteille. On reste sur un Steinert, forcément.
Et on est sur Grand Cru Steiner, donc calcaire, un vin de macération 2018, sans ajout, évidemment.
Ça pulse, ça fait voyager, c'est... Encore une fois, on a cette gourmandise-là. Ah, quand on ne buvait plus de Gewürztraminer parce qu'il était trop sucré, c'est vrai que la macération a donné un coup de fouet au Gewürztraminer et que c'est des vins qui sont pour moi beaucoup plus agréables à boire. Et je trouve, encore une fois, on a cette émotion-là. Alors forcément, le vigneron, comme quoi, c'est comme un artiste. Hein, les gens ne trichent pas et je comprends maintenant pourquoi il nous parle de la sincérité.
Et donc, ce qui est dans mon verre, j'ai mis la bouteille suivante. Dans le tien, tu as encore l'autre.
Ouais.
Ce qui est intéressant à observer, c'est l'évolution de couleur. Là, on est sur un orange beaucoup plus pâle. Et dans la bouteille ouverte depuis 6 jours, c'est un orange plus... Alors, pas orange par rapport au vin orange, c'est un vin de macération, c'est pas un vin orange, ça. Et donc, on voit l'évolution des couleurs. Alors, regoute-le encore une fois, comme ça.
Ouais.
Et puis, je te mets la bouteille fraîchement ouverte.
Qu'est-ce que c'est bon? Je suis désolé, mais là, il faut goûter parce que je pense que j'ai pas assez de mots. Je crois que l'Académie française doit inventer de nouveaux mots là, pour parler des vins parce que
on tourne souvent sur les mêmes, mais c'est pas voilà, on est sincère et on est honnête et franchement c'est bon, après on le savait hein, je savais que quand je viendrais, en venant ici, que j'allais vivre un grand moment, et c'est vraiment un grand moment que je suis en train de vivre, tant dans la personnalité, tant dans la simplicité. Finalement, plus on est simple, plus on fait de grandes choses, je crois.
On appelle les plantes médicinales, entre autres, on les appelle les simples. Mmh. Ou historiquement, on les appelait les simples.
Ouais.
Et c'est elles qui guérissaient.
Ouais.
Avant l'avènement des produits de synthèse.
Alors je dirais, si je devais comparer les deux, comparaison un peu n'est pas raison, il y a une gourmandise qui se crée au bout de 5-6 jours, qui est plus compacte, plus, et on n'a pas l'impression d'avoir les deux. Ben là, tu me fais pas... Bon, je savais que c'était du extraminaire parce que en macération, mais par contre, tu ne me montres pas les bouteilles. Pour moi, c'est deux vins totalement différents.
Justement, c'est ça qui est intéressant.
Alors que c'est le même.
Et c'est le même, et ça peut casser certaines idées reçues. Mmh. D'une part, que. Alors, c'est pas tous les vins, soyons d'accord,
mmh.
mais qu'il y a des vins qui n'ont pas de sulfite et qui, au bout de 6 jours, ne sont pas du vinaigre.
Mmh.
Et ce qui est remarquable, c'est que, justement, avec une bouteille. Mmh. Si on la boit sur 6 journées consécutives, on peut boire 6 expressions du même vin.
Ouais.
C'est comme un acteur sur une scène, il y a différents projecteurs, oui. parce qu'un jour il va se tourner vers le public là, à un moment autre, à un moment donné il va se retourner, et donc on amène différents éclairages. Et ça illustre aussi le facteur temps.
Bien sûr.
Et ça, on revient à de la philo. Aujourd'hui, nous sommes obnubilés par le temps. On veut remplir le temps. On veut faire le tour du monde. On veut tout voir. Et en fait, la vraie, une des dimensions du temps, c'est justement de prendre le temps, de pas se déplacer, d'être peut-être même dans une forme de silence si on y arrive.
Tu es spirituel comme garçon ?
Bah, tout le monde, hein. On est tous spirituels.
Bien sûr.
mais ça, c'est vraiment que le temps n'est pas dans notre société, le temps est presque un ennemi. Parce que moi, j'ai 66 ans dans peu de jours. J'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un qui a 25 ans, puisque j'en ai 66, où est le problème? Mais on nous conditionne et des performances.
Oui.
Moi, j'ai pas besoin de faire un marathon. Alors. J'ai appris. Je suis toujours impressionné que le marathon, on est passé à moins de 2h30 pour 42 km.
Oui. C'est impressionnant.
L'être humain
est
magnifique.
Bien sûr.
Enfin, sous certains angles, oui. magnifique. Mais voilà, on est dans ce... Voilà, il faut être performant. Mais en voulant être dans la performance, on bousille la planète.
Ouais.
C'est pas un joli mot, bousiller, mais c'est ce qu'on fait.
C'est ça.
Et socialement, on bousille plein de gens.
Ouais.
On s'écrase les uns les autres ouais. aussi. Alors que le temps peut être un allié. Et ce vin, l'un le préférera comme ça, l'un autrement. Mais... le temps qui s'est écoulé apporte une autre réalité, une autre dimension, et les deux sont intéressants.
Ouais. Comme je dis toujours, aujourd'hui, tout le monde a une montre sur le portable.
Pas moi.
Et plus personne n'a pas.
Ni montre, ni portable. Les gens n'en ont pas.
Bon, c'est très bien. Hein.
C'est rare, mais... Ouais.
Ah, mais...
Et alors, les gens disent, mais quand tu voyages... Alors, bon, depuis 2 ans, on voyage peu. Mais c'est pas possible sans téléphone.
Si c'est possible. Mais...
J'ai toujours eu une ou deux pièces ou un billet de 5 euros dans la poche. Et j'avais déjà besoin de téléphoner. Alors il y a des gens, je demande en anglais si c'est à l'étranger, est-ce que vous pourriez me prêter votre téléphone? Et ils vont avoir peur de te le piquer. J'ai dit, rassure-toi,
J'ai rencontré des gens, la première idée, c'était pas ça, que je voulais leur piquer le téléphone. Et ça, c'est pareil, ce sont des conditionnements. Alors, ça m'est arrivé, effectivement, des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là, il n'a pas de portable.
Bon, en France, c'est comme ça, ouais.
Il est un peu bizarre. OK, ça m'est arrivé. Mais généralement, des gens, ils sont tout heureux de rendre service. Et donc, je veux leur donner 2, 3, 5 euros, ils n'en veulent pas. Et moi, ce n'est pas pour des histoires d'économie, vraiment. Mais il faut faire l'expérience. Il y a plein de gens qui aimeraient rendre service. Et on ne leur donne même pas la possibilité. Alors, on parle d'hygiène de vie. Je ne sais pas, 2 fruits et 3 légumes par jour, etc. Bon, OK, c'est bien.
Ouais.
De toute façon, si on est plus à tendance végétarienne, c'est mieux.
Oui.
Si on arrive non pas à devenir végétarien, ce n'est pas forcément une nécessité, mais si on arrive à ne plus faire des élevages industriels qui sont vraiment de la souffrance animale, et ça, c'est comme un caillou qu'on jette dans la mare. La souffrance animale, elle se répercute dans tout notre système solaire. Et ça amène de la haine, etc., etc. Donc, il ne faut pas être anti-viande strict.
Non.
Si on veut avoir des bouges et des pâturages, nous, les humains, on n'est pas capable de transformer l'herbe.
Non.
Donc, les ruminants sont capables de valoriser l'herbe et de garder des paysages ouverts, ce qui est important aussi.
Bien sûr.
Et de nous donner des fromages, qui est aussi un monde, une culture extraordinaire, qui est quelquefois très proche du vin, avec des fermentations différentes, des terroirs. Hein. D'ailleurs, on a des AOC en fromage, etc. Mais effectivement, d'arrêter des élevages concentrationnaires d'animaux,
je suis très d'accord avec toi.
Ce serait une chose... écologiquement, éthiquement, heureuse.
Est-ce que tu aimes qu'on t'aime ?
Je comprends pas.
Ouais.
Ça, c'est un peu aussi dans l'ère du temps moderne. Moi, j'ai beaucoup lu Rudolf Steiner. Et ça m'a un peu imprégné, peut-être un peu forgé aussi. Et... j'ai un lien là avec François Boucher, qui est du Val de Loire.
D'accord.
Qui était un des premiers conseillers et contrôleurs à une époque en biodynamie. Et il expliquait que beaucoup de difficultés dans le vignoble, sur le végétal, provenait du fait qu'on veut se ménager, nous, ce qui est légitime, mais qu'on n'est pas au service de la vigne. Je me rappelle, ça remonte à plus de 30 ans. Il disait, mais tu vois, là, si tu ne veux pas te baisser et tu changes ta taille, ou tu ne veux pas faire ci et ça, mais tu le fais par rapport à la vigne, par rapport au vin ou par rapport à toi. Et ça m'a énormément marqué. Et il a dit, un vrai vigneron est au service de la vigne. Et dans un deuxième temps, au service du vin. Donc être aimé, oui, on peut lire les journaux. Moi, je n'ai pas de télé, je ne le regarde pas, ça me fatigue. Je préfère lire, je ne critique pas les gens qui regardent la télé. Hein. Mais voilà, c'est pas mon monde. Après, on est quand même abonné à plusieurs journaux, et je lis. Aimer qu'on m'aime, c'est pas mon problème.
Quand on dit qu'on aime tes vins, quand on te rencontre, quand les gens te disent qu'ils aiment tes vins,
mais ça te touche. Nos vins, c'est pas moi. Ouais. Faut pas s'identifier à ce qu'on fait. L'essence de l'être humain, c'est autre chose. Je préfère qu'on dise que on apprécie que si on n'apprécie pas. Ça, je suis d'accord. Mais au fond, sur Terre, on est deux choses. On devrait être deux choses.
j'y arrive pas non plus pleinement. On est là pour apprendre, on est apprenti, il faudra même apprendre à mourir, tous.
Bien sûr.
Et on est serviteur.
Et qu'est-ce que tu dirais au petit garçon que tu étais maintenant, si tu te regardes en arrière? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Bah qu'il a eu beaucoup de chance.
Ouais. Ouais.
Et que j'ai encore toujours beaucoup de chance.
Bah, c'est formidable. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon? Voilà, messieurs. Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Quelqu'un qui ne connaît pas ton domaine, tu dois, pour connaître ton domaine, tu dois lui proposer 3 cuvées. Ce serait quoi? 3 vins.
3 vins.
Je sais que les Alsaciens en font toujours beaucoup plus que 3.
Oui, ben, je mettrais un pinot noir.
Allez.
Parce qu'on nous a classé région blanc. J'ai un peu d'esprit de contradiction. Ça,
mais ça, je l'avais compris, ça.
Et ça, ça n'est pas tout à fait passé. Et je fais des efforts dans quelques secteurs, mais j'ai envie de garder un peu d'esprit de contradiction. Par rapport au système dominant, ça me nourrit même.
Vaut mieux.
Donc, par esprit de contradiction, j'aimerais bien mettre un pinot noir.
Ouais.
Parce que l'Alsace, c'est pas que du blanc.
Ouais.
Je mettrai forcément une macération, parce que la macération, c'est un outil 100% naturel. C'est un outil merveilleux pour amener des vins au bout des sucres.
Mmh.
Ah, faut qu'on en goûte encore un vin de macération. Où je me suis fait pas mal critiquer par des collègues très proches qui m'ont dit « Jean-Pierre, tu dénatures les Riesling en les macérant.
Mmh. »
Et dans 10 ans, il y aura plein de Riesling macérés parce que les Riesling n'aiment plus commencé. Fermenter.
Ça commence déjà. Hein.
Et leur expression est très très belle. Oui, alors qu'est-ce que je disais, pinot noir, une macération, parce que c'est un outil vraiment naturel qui nous permet de continuer cette mission presque de faire des vins sans additifs, mais on a besoin d'aide, la macération aide. Mm-hmm. Et ceux qui ne supportent pas, moi je dis souvent, y a des vins, des nôtres d'ailleurs, qui se font recaler en agrément externe pour des lits de faciès.
Mm-hmm.
Donc la philo, on revient... on est tous des humains, on a des couleurs plus colorées, moins colorées, visage pâle, visage pas pâle. Où est le problème? On est tous des humains, c'est tous des vins.
Oui, voilà. Non, je suis d'accord.
Alors que l'outil est merveilleux, et ça aussi c'est une ouverture. Pour moi la macération c'est un peu comme le passage d'élevage, de pressurage direct à la macération, c'est comme la bio à la biodynamie. Ça ouvre un horizon plus vaste, plus où il faut nous faire des efforts bien sûr pour arriver à avoir le juste discernement et de continuer à être apprenti. Et le troisième vin, bah pourquoi pas un Bergweingarten.
Allez,
voilà. Parce que le Bergweingarten, c'est un lieu. Il y a ce génie du lieu. Et bah, vous ne savez pas le cépage, ce n'est pas essentiel. Vous avez ce vin, s'il vous parle, quel que soit le cépage, l'essentiel, c'est qu'il vous parle et qu'il vous enthousiasme.
Ok. Alors, moi, je trouve ça... Bon, déjà, ce vin-là, alors, un nouveau vin qu'on goûte, je trouve que... Alors là, on a une couleur ambre. Un peu cuivre, un peu... J'ose même orange, non. Parce... Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de vin orange.
c'est la hype. Je déteste, qu'est-ce que je déteste ce mot quand on parle de hype. L'Alsace a la hype.
Je sais pas ce que ça veut dire.
C'est la mode.
C'est
un peu comme le Jura. C'est on parle de vigneron star, comme on parle de cuisinier star. Ça m'agace un petit peu, même dans le vin nature. On parle de plus en plus de stars, alors que clairement, pour moi, le vin nature, c'est l'humain qui c'est des valeurs. Moi, ce que c'est cette couleur, elle est juste intense. On est sur un vin qui
est, donc c'est vraiment le fond de bouteille qu'on se partage. Hein,
puisque... Ça me va les fonds de bouteille, vous savez.
C'est ouvert depuis 5 jours et donc je t'en parlais à la cave. C'est ce riz.
Ah, c'est le fameux.
2002. Vraiment un fond de bouteille. Ouais. Donc il y avait 10 grammes de sucre, qui est là encore et qui est sans sulfite et qui a tenu et vraiment un fond de bouteille. Hein, mais...
Tu sais quoi, c'est ce que j'aime boire. Ce velours qui te caractérise et cette intensité, c'est majestueux quoi. Ça c'est magnifique.
Pour disons 1,5 cm qui restait dans la bouteille, qui est ouvert depuis 5 jours, c'est vrai que c'est pas dégradé. Ça c'est métamorphosé forcément. C'est plus comme une ouverture. Mais il y a l'essence du vin est toujours là. Ouais.
Tu te rends compte, en 2002, tu mettais déjà vin sans soufre.
Oui. C'est... Alors, on a arrêté de mettre vin sans soufre. On l'appelait vin biologique.
Oui.
Parce que c'est en 2012 qu'est arrivé. Le vin biologique n'existait pas.
Non.
On considérait que ce n'était pas possible parce qu'on considérait qu'on ne peut pas faire des vins sans sulfite. Et depuis... On peut faire des vins biologiques, mais qui ont quand même droit à quelques intrants, je ne peux plus mettre vin biologique, puisque là, il y a zéro intrant.
Okay.
Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on met pur vin, zéro sulfite. Okay. C'est aussi une étape. Tiens, on va encore en goûter un autre.
Parfois.
On a parlé à la cave, et encore deux autres.
Encore deux autres? Bon, je vous garde encore un petit peu. Hein. De toute façon, vous savez qu'avec du raisin des papilles, les épisodes avec les grands, ça dure longtemps. Hein. Avec Christian Binaire, c'était « Allez, il faut que je coupe » et j'ai rien su couper. En fait, j'ai une peur bleue de déformer la parole des gens et je déteste que les gens, quand ils s'écoutent, après souvent, on oublie ce qu'on a dit. Donc, je coupe quasiment pas grand-chose. Je fais des podcasts nature quand même. Encore une fois, on a cette caresse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que tu es profondément gentil, ça c'est incroyable. Mais en fait, c'est cette simplicité. Et je crois, en fait, Jean-Pierre parle très bien, mais moi je décèle le petit garçon qui est quand même un petit peu rebelle, qui est un peu fier, qui est fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il propose aux gens, d'éveiller les consciences, d'éveiller les papilles. Et je parlais de sage tout à l'heure, mais forcément, un sage a forcément une part d'enfant en lui, non ? Une part d'insouciance.
C'est comme les poupées russes. Et c'est comme nos différents corps physiques, éthériques, les poupées russes. Il faut que l'enfant soit toujours totalement là.
Bien sûr.
Puis l'adolescent, puis l'adulte. Il ne faut surtout pas le perdre.
Non. Ça, c'est bon, ça.
Ça, on en a parlé.
Oui.
Donc, c'est un tri de pourriture noble.
Ouais.
Les pourritures nobles qui arrivaient très précocement. Donc là, il y a 32 grammes
de sucre. C'est celui du 1er août au 10 août, c'est ça ?
Voilà.
Ça, c'est magnifique, ça.
C'est un tiers d'auxerrois, un tiers de pinot blanc. Là, on parle cépage pour une fois.
Pas grave.
Et un tiers de pinot noir.
Et cette couleur, j'ai l'impression que j'ai de l'or.
Et donc, il n'y a aucune... Oui, il a tenu, mais il n'a pas fait de...
Il a tenu et...
Alors, c'est... évidemment, c'est pas filtré tangentiel, c'est pas filtré sur membrane, mais ça a été filtré sur plaque. Et des plaques un peu plus serrées, hein, parce que dans les plaques, il y a différents tamis. Donc, ça a été filtré juste avant mise en bouteille. Pourquoi ? parce que bah, le filtre, il retient un certain nombre de levures. Et dans un vin comme ça, bah, le défi, c'est que les levures résistent. Là, il y a encore plein de levures. Là, si on faisait un comptage à la bouteille, il y en a plusieurs milliers. Alors qu'on arrive à faire de la stérilité aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas l'objectif. Mais réduire la population des levures aide quand même, puisqu'il y a 32 grammes de sucre, à limiter un peu ce qui... Voilà. Tu vois, mais les... c'est surtout le pH qui...
Dans les trois vins que je te demandais tout à l'heure, moi je pense que ça te caractérise bien ça aussi. Cette précocité, cette... Parce que finalement, tu es au début de l'histoire, la biodynamie en Alsace. Moi, je trouve que ouais, ce vin, en fait, il est rempli de symboles.
Oui.
Il est vraiment rempli de symboles.
Concernant le vin, alors les alcools, je ne sais pas, mais je peux imaginer. Concernant les vins, ce qui est clair, c'est que le soufre détruit un certain nombre d'enzymes.
Oui.
Et en particulier des enzymes qui aident à la métabolisation de l'alcool. Donc, l'absence de sulfite ajouté fait que le vin est plus digeste. Sur le plan alcool, c'est vrai. Ça, c'est clair. Bah, des eaux de vie, oui, j'imagine aussi. J'ai moins d'expérience.
Je ne sais pas si tu as déjà goûté Spirale, mais c'est l'occasion.
Chantal, on a amené une fraise.
C'est chouane.
Ouais. C'est magnifique. Hein.
Ouais. Ouais, c'est bien travaillé, on les avait fait. Et c'est lui qui fait maintenant du coup les mioles de chez Binaire aussi. Donc, bah, ils se sont bien trouvés les deux. En fait, comment on peut boire ?
Ça, c'est pas sans sulfite. Hein.
Non, mais c'est bon.
Mais c'est bon.
Ouais. Non, mais c'est très, 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 c'est très bon. C'est... Encore une fois, cette pâte de velours.
C'est une petite escapade dans le temps.
Mm-hmm. Oh, un petit...
oh. Ça qui est intéressant.
2000. Bon, alors, moi, j'avais goûté à Noël, je crois, au Cantalou. Alors, Géraud, tu m'excuseras si je me trompe de l'année. Je crois que c'était en 2006, me semble-t-il. Est-ce que c'est possible ?
C'est possible.
Je dois avoir la photo quelque part. Attends. Je crois que c'était une 2006 que j'avais goûté chez Géraud, et ben c'était justement, et à chaque fois qu'il me voyait arriver dans le bar, qu'il proposait ce vin, et il me disait toujours, c'est vrai, hein Mika, tu confirmes, hein, l'Alsace, les vins ne vieillissent pas, et en calcule encore moins, et à chaque fois il sortait la même tire. Je crois que c'était, je garde pas forcément tout, mais qu'est-ce que c'était quoi? C'était le Riesling Steinert 2006. C'est celui-là. Alors, la photo est un peu floue, mais c'était celui-là.
Oui, oui, oui. Oui, la belle couleur.
Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est là où j'ai dit, bon, il faut absolument que je fasse le podcast. Là, ça suffit. Il y en a marre. Bah tiens, puisqu'on... la dernière question qui, pour moi, est importante, et parce que je m'appelle du raisin des papilles, mais parlons quand même un peu des papilles, je voudrais que tu fasses saliver les gens. Alors là, je veux que tu rentres dans les détails. Je veux que tu me parles de ton, pour toi, ce qui est le meilleur gueuleton, la meilleure tablée. Avec qui tu manges, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, parce qu'on parle quand même de vin, et où on mange. Mais qui, pour toi, c'est quoi ce serait pour toi le plus beau repas, et je veux les détails croustillants.
Mes souvenirs les plus magnifiques, c'était des choses, des moments et des repas pas tout à fait organisés. Et je me rappelle avec Stefano Bellotti, qui est maintenant dans l'autre monde, qui est un viticulteur dans le Piémont italien. Je le comparais à Don Quichotte. Il est tout mince, une petite barbichette et un homme que j'aime beaucoup, voilà, même s'il n'est plus sur Terre, et qui faisait des vins rustiques, mais rustiques, c'est pas du tout péjoratif, des vins un peu comme un écorché, tout à fleur de peau, et voilà. Et je me rappelle, je pense que c'était en 93, à la Pentecôte, nous avions un orage de grêle et assez sérieux sur les routes murlées, ça a tout flingué. Et nous devions aller voir Stefano Novi Ligure, donc le Piémont italien, pour 2 jours. Et donc, on est allé voir ces vignes. Bon, nos enfants étaient encore petits. On a emmené les 3. On a dit, bon, de toute façon, là, on n'y changera rien. Allez, on annule pas et on y va. Et donc, on a découvert sa cave avec des foudres en acacia. C'est les premiers foudres en acacia que j'ai vus. Ils n'ont pas les petits robinets rivres là, comme nous avons en bois. Mmh. Ils avaient juste un petit fil de fer avec un tout petit trou. Et donc, ils enlevaient ce fil de fer et il y a un tout petit filet comme le Manneken Pis là, qui remplissait, mettait un peu de vin dans le verre. Et on a mangé chez eux. Ah, je ne saurais plus dire quoi exactement. Il y avait son chien, enfin. Après, c'était parce qu'il y a eu la grêle. Mais voilà, rien n'était programmé précisément. C'était extraordinaire. Et donc, Rovero, des gars qui font du vin et de la distillation, pas loin de chez lui, vous avez dit, bah, tiens, viens aussi avec eux, et puis on fera un petit truc. Et eux faisaient table d'hôte. Et le lendemain, on est allé chez eux, mais rien n'était prévu. Et on a mangé une succession de petites et magnifiques petits plats magnifiques, des trucs, voilà, on sentait que c'était vraiment il y avait le cœur. C'était pas organisé, c'était pas un 3 étoiles pour épater le gars qui paye cher et tout, non, c'est voilà, moi tu me demandes, voilà, un souvenir, ce souvenir qui est finalement lointain, je suis sûr que c'est 93, c'est quand même lointain, ben il est revenu très vite suite à ta question. Mmh. Et donc, il y avait cette... Alors, est-ce que c'était super bien cuit ou pas bien cuit, je ne sais pas. Mais il y avait cette humanité dans ce que nous avons goûté à table et dans les vins. C'était merveilleux. Et une autre histoire qui me revient, qui est lointaine aussi, parce qu'avec la foire bio, on a un peu essayé de soutenir l'association des enfants de Tchernobyl. Et donc, la pectine de pomme pour des enfants qui étaient pas mal irradiés, qui étaient à Pripyat, là, assez proche. La pectine de pomme, ça permet un peu de... extraire, entre guillemets, la radioactivité. Et avec Thierry Meyer, le président de l'association des enfants de Tchernobyl, qu'on connaît depuis longtemps, on a fait de la politique ensemble. Tu vois, il a dit, bah, si vous voulez, on fait un petit tour en Ukraine. Et, Ukraine, voilà. Mmh. Donc, nous étions à Kiev et à Pripyat, la fameuse centrale de Tchernobyl qui est en Ukraine, hein, en fait. Et on était sur un kolkhoz là-bas en biodynamie. Ah, ça me prend la gorge, là. Et je ne sais plus exactement ce qu'on a mangé. C'était bon. C'était magnifique. Maintenant, je ne me rappelle même plus la question au début, mais voilà. Ça, c'est ma mémoire.
J'ai envie de vous dire, on va rester sur ce moment-là. En général, je pense qu'il y a des moments, des rencontres comme ça. Moi, je voulais juste te remercier, Jean-Pierre. Merci de nous avoir offert ce moment. Parce que je crois que quand j'ai lancé cette idée de podcast, tout le monde m'a dit oui, mais l'Alsace est... Alors, j'ai aucune fierté, aucun ego, mais à chaque fois que je fais un épisode, que ce soit avec un ancien ou un jeune, je me dis, mais ils n'ont rien compris au sens de l'histoire. Je suis fier. Alors, aujourd'hui, je suis fier parce que, à la fois, tu as dit des mots bienveillants pour les jeunes, mais je pense que, et c'est là où est la force d'Internet, c'est que c'est des paroles qui resteront à jamais. On va t'entendre. Est-ce que tu as passé un moment?
Pardon?
Est-ce que tu as passé un bon moment?
Ah oui, oui, oui.
Parce que je crois que c'est important que de temps en temps, on se poser. Alors, t'es pas du genre à regarder en arrière, ça j'avais bien compris. C'est marrant parce qu'à 42 ans, j'ai envie de te dire, garde ta fraîcheur alors que t'as des années plus que moi. Mais juste te dire merci pour ce moment-là. Merci pour ces mots, pour cette richesse, pour... Finalement, et je crois qu'il y a une derrière moi, je sais pas si tu les vois, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de te dire merci. J'aurais dû faire cet épisode avec Théo Einhardt qui n'a pas pu parce que quand on a un domaine, parfois on a des choses à régler avant, et il y a des priorités. Et je sais quand il va écouter son épisode, cet épisode, mais je viendrai avec lui parce qu'à un moment donné, il le mérite. Je suis très ému aujourd'hui parce que pour moi c'est un grand moment et Dieu sait que j'aime l'humain et Dieu sait que je pense que la bienveillance va guérir ce monde et on est capable de ce monde et puis si cette bienveillance
peut nous y travaillons
et j'ai envie de, je vais dire un grand mot et putain aimons-nous. Trinquons, partageons, je pense souvent à ce sourire de d'Arun dont on parlait tout à l'heure, qui s'est battu comme personne pour vivre, de tous ces vignerons, tout ce que vous avez traversé pour finalement être intérieurement, ça me fait toujours sourire. On vous a couru après, critiqué. Aujourd'hui, vous êtes des légendes. Ça doit être beau. Après, je crois qu'il y en a aucun de vous qui est revanchard. Par contre, j'ai un souhait et je veux quelque chose. Je l'exige pas, je le voudrais, mais il faut que j'arrive à convaincre les deux autres encore. J'adorerais qu'on fasse un moment avec toi, Patrick, Bruno et Christian. J'adorerais faire un moment juste votre quatre, parce que je pense que c'est important et pour l'histoire de notre région. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Théo Schlegel dit toujours, il faut être fier d'être ce qu'on est, Alsacien. Oui.
Ou ukrainien.
Oui, mais il n'y a pas de raison que. Exactement. Soyons fiers de ce que nous sommes.
Il faut assumer.
Exactement. Un petit mot pour nos auditeurs avant de terminer.
Moi aussi, je te remercie beaucoup. Je suis ému aussi. parce que tes questions, la mémoire. Alors j'ai pas répondu académiquement. Tu disais, ce qui t'a le plus marqué.
C'est ta réponse.
Et en lien avec des gens, Stéphano, Donc, grand merci à toi aussi.
Merci à toi. Comme je te dis toujours, il y a près de chez vous un caviste, un bon restaurant qui va faire l'effort de choisir sa matière première, ses vins, son café. Il y a toujours une histoire derrière un plat, derrière un verre de vin. Buvons modérément, buvons libre et amoureusement, buvons Alsace. Et comme je dis toujours, il faut juste qu'il remplisse un peu son verre parce que sinon ça marche pas. Parce que ich bin Elsasser und ich kann nicht, je ne peux pas faire, ich kann nicht chinmorek avec quelqu'un. Allez, merci à toi, Jean-Pierre. À très bientôt. On se voit dans les salons. À bientôt. Ciao, ciao.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.